27 right, wind 250 degrees, 1
clear.
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 Clear. Green. Descend.
Hey, salut à toi et bienvenue. Ça me fait très plaisir de te retrouver sur un nouvel épisode du podcast de l'expérience Shiban. L'expérience Shiban, si tu nous découvres, c'est un podcast aéro où nos invités te partagent leur parcours et leurs anecdotes dans une discussion technique et humaine entre passionnés de machines volantes. Je m'appelle Sébastien et avec mon équipe, on espère tous que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Au premier abord, on pourrait penser qu'un Shiban est forcément pilote. Mais à l'expérience Shiban, on aimerait élargir un petit peu cette définition et inclure autant que possible tous les acteurs impliqués dans les opérations aéronautiques. Finalement, les pilotes sont loin d'être les seuls à avoir des parcours instructifs, divertissants et inspirants. À partir d'aujourd'hui, donc, on va ensemble partir à la découverte de parcours un petit peu différents. On va essayer d'interroger des ingénieurs, des mécaniciens, des contrôleurs aériens et bien plus, j'espère. Aucune inquiétude pour autant. L'idée est quand même de rester dans le récit de parcours de vie aéro saupoudré d'anecdotes passionnantes. Aujourd'hui, on débute cette diversification dans le podcast en douceur. En effet, Lucie, notre invitée du jour, est ingénieure navigant d'essai en vol chez Airbus, mais également et surtout qualifiée en tant que pilote sur Airbus A320 et toutes sortes d'avions légers. Bonjour Lucie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour venir sur le podcast.
Bonjour Sébastien, merci de m'avoir invité.
Avec grand plaisir. Alors tu es aujourd'hui ingénieur navigant d'essai en vol pour un des plus gros avionneurs mondiaux, peut-être même le plus gros en fonction des critères qu'on prend en compte, mais il n'y en a qu'une cinquantaine des « entre guillemets » comme toi dans le monde. Alors une fois n'est pas coutume, je vais arrêter dès maintenant cette introduction et te laisser la parole pour que, avant de commencer de parler plus personnellement de toi et de ton parcours, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un vol d'essai et le rôle de l'ingénieur navigant d'essai ?
Oui, alors effectivement, moi je vole sur des vols d'essai. J'en ai fait sur des avions légers comme des Airbus aujourd'hui, mais c'est un peu le même principe sur tous les avions. Alors il y a plusieurs types de vols d'essai. Il y a bien sûr les prototypes. C'est-à-dire la première fois qu'on essaye une machine volante, c'est ce que faisaient directement nos pionniers. Donc quand on fait un vol d'essai sur un prototype, on peut essayer ses systèmes, les performances de l'avion, essayer les commandes de vol, faire des démonstrations. On vole aussi sur des prototypes pour faire ce qu'on appelle des data packages, c'est-à-dire les simulateurs de vol qu'utilisent les pilotes aujourd'hui. Sont créés à partir de données que nous, on a obtenues en faisant des essais en vol. Et puis, quand on fait un nouvel avion, eh bien, on va l'essayer par temps très chaud, c'est-à-dire qu'on va dans le désert en été. Par temps très froid, on va aller en Groenland en plein hiver. Haute altitude, par exemple La Paz en Bolivie. On va faire du vent de travers à Reykjavik, on va faire de la piscine. Vous avez peut-être entendu parler de ce type d'essai où en fait on fait atterrir l'avion dans une piste qui est saturée d'eau et l'eau rentre dans les moteurs tellement il y en a. Et en fait on vérifie que tout va bien quand même. Enfin bref, on fait toutes sortes d'essais sur les prototypes et notamment aussi je pense aux mesures de bruit, voilà. Ensuite, d'autres types de vols d'essai sont les vols de réception. Alors là, on parle d'avions qui sont connus. Bon, ça marche sur Airbus, mais ça marche également sur tous les types d'avions. Quand un client achète un avion, alors je vous donne un exemple, une compagnie aérienne qui achète un A320, l'avion est fabriqué en chaîne et nous, on fait le premier vol sorti de chaîne. S'il y a besoin, on fait d'autres vols d'essai en fonction de ce qu'on a trouvé au premier vol. Et ensuite, on fait le vol de démonstration au client. C'est un peu comme si vous achetez votre voiture et vous allez faire un petit tour pour vérifier que tout va bien. Éventuellement, on peut faire le vol de convoyage et puis également, on peut aller stocker l'avion si le client n'en veut pas tout de suite pour X raisons et s'assurer tous les 3 mois qu'il vole bien. On fait aussi des vols d'essai sur les avions en service. Alors le typique, c'est aujourd'hui beaucoup d'avions sont possédés par des lessors, des compagnies de location d'avions. Pas tous, hein, c'est au choix de la compagnie aérienne. Et le lessor, qui est une grosse entreprise qui possède énormément d'avions de tout type, peut changer de client après la durée du contrat, par exemple 5 ans. Donc la compagnie aérienne va rendre son avion. Le nouveau va demander donc une nouvelle livrée avec les couleurs de la nouvelle compagnie, éventuellement une nouvelle cabine, éventuellement il peut demander des modifications de moteur, de système. Et donc nous, notre rôle est d'aller essayer l'avion modifié là où il est dans le monde, ça peut être n'importe où, et à la fin de l'essai, signer un document pour le propriétaire en disant « cet avion, il est impeccable, vous pouvez le reprendre les yeux fermés ». Donc on signe pas la certification, mais la qualification de cet avion et c'est reparti. Et puis qu'est-ce qu'on fait d'autre comme vol d'essai ? On fait des démonstrations aux autorités pour la certification quand il y a des modifications. On fait des meetings aériens, les airs chauds, vous l'avez certainement vu, hein, Paris-Le Bourget, Londres-Farnborough, et puis Singapour Air Show, FIDAE à Santiago du Chili, tous les meetings aériens. Et on fait également des vols humanitaires. On a transporté du matériel humanitaire. Un exemple, c'était à Katmandou lors du tremblement de terre, ou alors on a été en Afrique, ou alors on a été chercher des masques, enfin bon, selon. Et on fait également des vols photos. Quand le client nous demande un joli vol, où on va aller par exemple raser une couche nuageuse au coucher du soleil pour voir les vortex à l'arrière des moteurs, le tout en patrouille resserré, avec un avion spécialement équipé avec une caméra sous l'aile. Donc voilà, tout ça, c'est ce que j'appelle des vols d'essai. Donc effectivement, moi je fais ça chez Airbus, ça existe chez tous les constructeurs. Et donc pour faire ce genre de vol d'essai, il nous faut bien évidemment des pilotes pour piloter l'avion dans ces circonstances très particulières, mais il faut également un ingénieur qui a écrit l'ordre d'essai, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire. Et donc ça, c'est le rôle de l'ingénieur navigant d'essai, donc c'est mon travail à l'heure actuelle. C'est, on me donne une mission, je regarde qu'est-ce qu'il me faut, quelle est la configuration de l'avion, voilà. Je prépare les essais avec l'aide de tous les spécialistes et je présente l'ordre d'essai au capitaine qui a été choisi pour faire le vol. Et donc ensemble, on va conduire cet essai. L'ingénieur navigant d'essai est à bord de l'avion pendant tous ces vols. Il conduit les essais, c'est-à-dire qu'il dit maintenant il faut faire ci, il faut faire ça, il prend les données. En fonction de comment ça se passe, on peut décider de recommencer un essai, d'annuler la suite si on a des pannes. Enfin, voilà, on est un équipage à trois. Et à la fin du vol, on écrit un rapport d'essai et on décide, c'est l'ingénieur donc qui décide de la suite. S'il faut modifier tel ou tel système, si cet avion est bon pour le service, enfin, selon la mission. Voilà donc le travail que je fais aujourd'hui.
Ah, c'est beaucoup plus vaste que ce que je pensais. Je savais même pas que vous faisiez, par exemple, les vols un peu esthétiques pour des vidéos promotionnelles pour les compagnies, etc. Très intéressant.
Oui. Oui, bien sûr, tout ce qui sort de l'ordinaire.
Alors maintenant qu'on a une idée plus claire de ton métier actuel, je te propose qu'on parle un peu plus de toi et de ton parcours maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, s'il te plaît ? N'hésite pas à rentrer un peu dans les détails, d'ailleurs, parce que je trouve que ton parcours est quand même très intéressant et on peut en tirer pas mal d'enseignements. Et aussi, si tu veux bien accompagner cette description d'une timeline sommaire pour qu'on se rende compte un peu de combien de temps prend chaque étape. Voilà.
Alors effectivement, il faut bien imaginer que je n'avais aucune idée que ce métier existait quand j'étais jeune. Hein. C'est plutôt rare. Et aussi, je suis d'une famille qui n'est pas du tout aéro. Donc effectivement, le timeline, ça a été long avant d'arriver à ça parce que je ne savais pas que ça existait. En fait, ça a commencé quand j'avais, 5, 6 ans, 7 ans peut-être. J'habitais aux États-Unis et on rentrait voir la famille régulièrement. Et donc, je faisais souvent des vols transatlantiques. Et j'ai un souvenir très particulier où j'étais très intéressée par le cockpit. Et j'avais demandé et les pilotes m'ont gentiment autorisé à venir dans le cockpit. Et là, j'ai vu une aurore boréale longtemps. D'ailleurs, j'en ai vu plusieurs après, et vraiment, ça m'a marqué. C'est vraiment le début de toute ma carrière aéronautique, c'est l'aurore boréale en vol, avec le Groenland en dessous, qui était tellement blanc qu'on le voyait de nuit. Et je me disais, mais c'est absolument formidable ce métier. On a des vues extraordinaires en vol. On est arrivé à Paris au petit matin avec un lever du soleil entre deux couches de nuages. C'était splendide. Et je m'étais dit, mais c'est ça que je veux faire. Parce qu'ils ont une vue, la vue du bureau est exceptionnelle. Et une fois qu'on est arrivé, qu'on a atterri, ce qui est plutôt sympa aussi, je trouvais ça génial, et bien ça y est, on a fini. Bon, ça me paraissait très simple à l'époque. Et en fait, ça ne l'a pas été. Finalement, moi, je mets énormément l'adrénaline également. Et je m'étais dit, on allait aux meetings militaires aussi régulièrement. Voilà, mais mon père aimait quand même l'aéronautique. Et il paraît que j'ai fait un baptême de l'air à 4 ans. Je ne m'en souviens plus, mais ça m'a peut-être marqué. Donc, je suis très reconnaissante à mon oncle qui m'a permis de faire ça. Et donc, j'avais décidé, bon, ben, pour commencer, d'être pilote de chasse. Parce que, voilà, c'était un superbe avion, ça bougeait, ça faisait du bruit, il y avait l'adrénaline, il y avait tout ce qui me plaisait. Donc, forcément, ben, j'ai postulé à l'armée de l'air. En 86, c'était l'année de sortie de Top Gun. Et c'était avant qu'il soit sorti. Et l'armée de l'air m'a dit, ah mais désolé, les filles ne peuvent pas devenir pilotes de chasse. Et je pense que ça a été vraiment mon premier coup de poignard, où j'ai dit, mais laissez-moi ma chance. Là, franchement, j'étais éliminée direct cause chromosome. Bon, ils avaient leurs raisons, certainement. Hein. Aujourd'hui, les choses ont changé. Hein. Caroline Aigle a été la première pilote de chasse française, mais en 93. Donc, c'était déjà après. Alors, j'étais tellement vexée que je n'ai pas été voir Top Gun, hein, parce que ça me faisait vraiment trop mal au cœur. J'irai voir le Top Gun 2, d'ailleurs. Enfin, depuis, je l'ai vu. Hein. Mais bon, ça, c'est quand même un gros coup de poignard sur le coup. Et je me suis dit, bon, alors l'armée m'a dit, mais vous pouvez être pilote de transport. Ah ouais, non, mais là, j'étais vraiment vexée. Hein. C'était pas la peine. Donc, je me suis orientée vers pilote de ligne, puisque j'avais toujours cette aurore boréale en tête. Donc, j'ai postulé pour les cadets de British Airways. À l'époque, j'habitais en Angleterre, à l'âge de 16 ans et 17 ans. Et bah, première déconvenue, si on peut dire, j'étais en concurrence sur les... Alors, les psychomoteurs se sont bien passés. Sur les psychotechniques, ce sont des sélections qui demandent de la maniabilité d'un joystick. Il faut suivre une croix, il faut être très, très réactif. Et ben, j'étais en concurrence avec des pilotes de chasse qui prenaient leur retraite, encore eux. Et on s'était bien entendu, mais j'avais bien compris qu'ils avaient une expérience que j'avais absolument pas. J'avais aucune préparation, donc je me suis fait étendre au psychotech. Bon, j'avais 17 ans, toute la vie devant, c'est bon, quoi. Pas de soucis d'école. Donc j'ai continué et je me suis dit, bah, je vais faire Air France et l'ENAC, qui recrutait donc au niveau Bac plus 1. Ok, je fais prépa. Et en Bac plus 1, Air France, c'était en 91, a dû annuler son recrutement à cause de la guerre du Golfe. Et il y avait des problèmes de prix du pétrole, les compagnies aériennes n'allaient pas bien, le transport aérien est extrêmement soumis au contexte politique, en particulier en ce qui concerne le pétrole. Donc, j'ai pas pu le passer. La promo d'avant était devenue bagagiste, enfin bon, c'était la morosité. Et quant à l'ENAC, eh bien, je me suis fait étendre au psychotechnique cette fois. Je n'avais pas fait la préparation, puis j'étais en prépa, j'avais un peu autre chose à faire, faut dire. Bon, j'avais des bonnes notes, tout le monde m'a dit « assure-toi un diplôme d'ingénieur ». Ouais, le côté ingénieur m'intéressait aussi, je m'étais dit « je vais faire l'ENAC ingénieur et puis on verra bien ». Donc, changement d'objectif. Ok, je fais ENAC ingénieur, je commence à travailler... Et là, j'étais dans un bureau et je me suis dit, oh, mais c'est pas du tout ce que je veux faire. Je veux pas être dans un bureau, moi je veux voler, je veux être pilote. Et ils m'ont dit, dans ce cas, il restait la voie de l'aéroclub. Sauf qu'il fallait les moyens, quand même, pour se payer des heures de vol. Et ces moyens, je les avais pas. Donc j'ai attendu de travailler, voire même de me faire embaucher Airbus, parce que Airbus pouvait nous proposer des subventions à l'aéroclub Airbus à Toulouse. Donc, objectif, me faire embaucher Airbus. J'ai bien travaillé, je me suis fait embaucher Airbus comme ingénieur et j'ai été m'inscrire à l'aéroclub. Et là, coup de cœur, c'est sûr, c'est ça que je veux faire. Je veux faire pilote privé. Donc là, j'ai enchaîné assez rapidement en travaillant comme ingénieur et en travaillant bien. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'on me reproche de mal travailler. Je travaillais comme ingénieur chez Airbus. Et je passais le reste de ma vie à l'aéroclub, en gros. Donc j'ai enchaîné PPL, j'ai fait 300 heures de vol par an pendant plusieurs années. J'avais l'impression que mon salaire pouvait être viré directement à l'aéroclub. Je me privais de tout le reste, mais c'était tellement agréable. Et en 2001, j'ai passé un CPL, un pilote professionnel, donc le vol aux instruments, le multipilote, et janvier 2002, le stage instructeur à Grenoble. Et donc dans le but, donc à ce moment-là, je volais énormément en avion léger, mais j'avais toujours mon but, c'était de représenter Air France. Et donc en 2001, j'ai postulé chez Air France, j'ai passé les sélections en 2002, et alors cette fois, je me suis préparée. J'ai bien préparé les psychotechniques, les psychomoteurs, et donc j'ai réussi toutes les étapes des sélections Air France. Et manque de peau, en septembre 2001, voilà que c'est la catastrophe à nouveau, les attentats à New York, Washington. La compagnie a réduit fortement son recrutement. Et donc sur les 12 qu'on était dans notre groupe, il n'y en a qu'un seul qui a été pris. Et donc 2002, fin de l'aventure Air France, qui me disent « Représentez-vous dans 3 ans et 1000 heures de vol ». Bon, 1000 heures de vol, je pouvais faire, j'étais occupée en avion léger, pas de problème. Donc j'ai beaucoup volé en avion léger, je t'en parlerai plus tard, Sébastien. Et après, en 2004, alors dès 2002 en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ingénieur navigant d'essai, à découvrir les essais en vol. Et en 2004, j'ai été recrutée comme ingénieur navigant d'essai. Et à ce moment-là, j'ai été envoyée à l'EPNER. Donc, je promo 2004-2005 avec mes collègues d'Airbus. Hein, on a fait une année d'études EPNER en tant qu'ingénieur navigant d'essai avec les pilotes d'essai. Et très honnêtement, je n'ai plus représenté de concours compagnie aérienne depuis. Parce que, effectivement, le rêve de pilote de ligne m'est resté dans la tête. J'ai quand même passé, oui, ici, des sélections au CIMU, j'ai été prise. Mais en fait, là, je me suis rendu compte que j'avais un problème de motivation parce que la passion des essais en vol, ça y est, ça s'était infiltré. Et je crois que j'ai décidé de rester dans les essais en vol et je t'en parlerai, tu comprendras bien pourquoi. Voilà, donc en gros, ça a commencé par l'armée de l'air en 86, tu voulais un timeline, jusqu'à 2004, hein, il y a quand même longtemps avant de changer d'objectif.
Et tu dis que tu as découvert les essais en vol, c'était via ton travail chez Airbus, j'imagine.
Oui, absolument.
Tu côtoyais un petit peu ce service.
Alors, quand je te disais que je travaillais bien comme ingénieur, il fallait quand même que j'aie quelque chose d'intéressant à faire. Au début, en fait, j'ai travaillé sur le data link, qui sont les communications air-sol numériques, qui étaient essentiellement développées pour les avions qui traversent le Pacifique Sud, où les communications ne sont pas faciles. Donc on envoie des messages écrits, c'est un peu comme un SMS, mais là on est en 97-98, c'est tout nouveau et c'est quand même extrêmement pratique. Donc moi je préparais les présentations pour mes chefs qui allaient les présenter à Honolulu, à Papeete, mais c'était très très technique. Je travaillais sur l'encodage des données en particulier. Et après un moment, quand même, ils m'ont mis à la télémesure. La télémesure, c'est l'ingénieur qui est au sol. Alors moi, j'étais chef d'écoute, en communication avec le prototype Airbus, en l'occurrence, qui était en vol, qui faisait des essais. Et donc, je suivais tous les essais. J'avais accès à toutes les données de l'avion. Et mon rôle était de répondre à l'ingénieur navigant d'essai qui était en vol, quand il avait des questions techniques pour les spécialistes, et au sol, j'étais entourée des ingénieurs spécialistes, et comme j'avais une qualification radio, notamment, je pouvais communiquer avec lui sans gêner l'opération de l'avion, et lui obtenir toutes les informations techniques précises dont il avait besoin pour conduire ce vol. Notamment, ça se fait avec des vols qui sont très délicats, je pense au flutter. Le flutter, on voudrait savoir si les commandes de vol ne se mettent pas en résonance avec des vitesses. Par exemple, les ailerons, si ça se met à vibrer avec la vitesse, il ne faudrait pas que la vibration se transmette à l'aile et qu'il y ait un problème de fragilisation de la structure. Donc, on suit exactement les vibrations des commandes de vol et on analyse la courbe qu'on voit. Et si l'ingénieur à bord a un doute, il y a l'ingénieur au sol qui peut dire là c'est bien, là c'est pas bien, là tu peux augmenter la fréquence, le gain, etc. Et donc mon rôle était de transmettre les informations, simplement. Sauf que là, ben, j'ai fait des essais de toute nature et j'ai commencé à découvrir les essais en vol. D'autre part, j'ai travaillé à ce moment-là en parallèle comme pilote sur TB20 et on faisait des essais en vol également, donc je t'en parlerai un petit peu plus tard. Et c'est là que j'ai commencé à me dire le côté technique est totalement passionnant, donc j'ai envie d'y rester.
Alors on reviendra un petit peu plus tard, comme tu l'as dit, sur vraiment les essais en vol. Quand tu nous as raconté ton parcours, on voit que tu as vécu quelques grandes désillusions avec, comme tu le disais, l'armée de l'air qui ne recrutait pas de femmes pour devenir pilote de chasse à l'époque, puis les annulations de sélection Air France cause voilà, pas de bol. Comment on se remet en marche après des coups durs comme ça?
Alors, bon, la première chose, c'est quand on est très enthousiaste comme moi, la désillusion est à la hauteur de l'enthousiasme. Ça c'est sûr et c'est valable pour tout le monde. Quand on passe un examen, quand on se fiche un peu, bah, l'échec c'est pas très grave. Quand on y met tout son cœur, ce qui est le cas chez beaucoup de pilotes, parce que honnêtement c'est un métier de passion, et je me dis que c'est encore pire chez les artistes, quand on y met vraiment beaucoup de soi, la désillusion est assez forte. Ceci dit, avec le temps, j'ai commencé à me poser les questions. D'abord, est-ce que ça me remet en cause personnellement? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas les qualités humaines voilà, pour réussir ce métier? Bon, non, à chaque fois, c'était pas moi personnellement. Donc c'est la première chose, et le conseil que je pourrais dire à ceux qui subissent une désillusion comme ça, c'est ne pas se dévaloriser, déjà. Deuxième question, ensuite, il faut toujours analyser pourquoi je n'ai pas réussi. Est-ce que j'ai manqué de préparation? Alors comme je vous l'ai dit, effectivement, je n'ai pas été préparée, par exemple dans le cas de British Airways ou les Premières France, je ne me suis pas assez préparée. C'est vrai que c'est un peu injuste, on peut dire, parce que ces écoles de préparation aux psychotechniques, aux psychomoteurs, c'est cher. Mais après, c'est la loi du concours, les meilleurs seront pris. Donc bah, effectivement, il faut ces écoles, ça marche. Quoi. Bon. Sauf ceux qui ont les qualités directement, ce n'était pas mon cas. Aussi, on peut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment le niveau pour réussir cette sélection? J'ai pu en douter, et puis avec le temps, finalement, bon, j'ai passé une qualif à 320, j'ai fait beaucoup de simu après être qualifiée, et on m'a dit que, bon, avec l'expérience, effectivement, j'avais un niveau qui était... qui était particulier parce que moi je fais de la maniabilité, je ne connais pas le métier de la ligne, hein, je fais tout ce qui est mania de l'avion, oui, je le connais bien. Donc en fait, ce n'était pas un problème de niveau. Et ensuite, tous les événements extérieurs à la sélection. Il faut bien penser qu'on est tous, on fait tous partie d'un monde qui évolue au jour le jour. Donc je vous ai parlé de la guerre du Golfe, du 11 septembre 2001, ceux qui tentent les sélections ou qui ont tenté récemment, il y a la crise sanitaire. C'est un métier qui est très très sujet à la conjoncture en général. Donc un échec dû à la conjoncture, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est les circonstances. Hein, on fait tous partie d'un monde en mouvement. Donc voilà, on ne peut pas en vouloir à la conjoncture. Donc comment on s'en remet? La première chose, c'est se remettre en cause. Est-ce que je peux mieux faire? Et aussi, est-ce que je suis très motivée pour cet objectif? Alors effectivement, moi jusqu'en 2002, Air France, je l'étais extrêmement. Et puis, à force d'avoir découvert d'autres aspects du vol, et je me suis aussi posé la question, moi, qu'est-ce qui me plaît? Effectivement, c'est d'être en l'air. Air France me dit, revenez dans 3 ans. Bon, mais pendant 3 ans, est-ce que je vais arrêter de voler? Surtout pas. Et finalement, voilà, qu'est-ce qui me plaît vraiment? C'était d'être en vol, c'était la technique. Donc en fait, comment on s'en remet? Voilà, en se remettant en cause et en réfléchissant à l'objectif. Et finalement, j'ai changé d'objectif. Et donc, je ne considère absolument pas que c'était des échecs.
Bon, on dit souvent quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Bon, voilà, c'est une belle porte qui s'est ouverte pour toi finalement, comme on le voit.
Oui, tout à fait. Il faut regarder partout et puis il faut penser, qu'est-ce qui me fait plaisir? Et c'est pas forcément ce que j'aurais pensé au début. D'ailleurs, je pense à une citation de Jacques Prévert. C'était il suivait son idée. C'était une idée fixe et il s'étonnait de ne pas avancer. Ah, effectivement, j'avais comme idée fixe de devenir pilote de ligne Et puis bah, les conjonctures, les événements font que bah, finalement non. Mais finalement, le monde, on est tous en mouvement. On est tous en mouvement, nos soi sont en mouvement. Et c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Donc en fait, finalement, aujourd'hui, je suis très très contente d'avoir eu toutes ces expériences.
C'est beau, et j'espère que ça pourra redonner du baume au cœur à ceux qui sont dans un moment un petit peu difficile aujourd'hui. On va rester un petit peu dans l'aspect peut-être difficile, mais tu me disais quand on s'appelait, pour préparer cette discussion, qu'il fallait faire beaucoup de sacrifices pour devenir pilote. Quel est ton ressenti à ce sujet, au-delà de ce que tu viens de nous dire ?
Oh oui. Pilote, c'est honnêtement, c'est un métier de passion. C'est un métier qu'il faut aimer faire, hein, parce qu'on travaille dans un environnement particulier quand même, dans l'avion, dans l'air. Et ça nécessite des sacrifices, alors par exemple financiers. D'abord, comme je disais, une heure de vol, c'est cher. Moi, n'ayant pas réussi les concours cadets, qui sont quand même... il y a très peu de place, hein, donc... j'ai dû attendre d'avoir 25 ans avant de commencer à voler en avion léger. Financièrement, c'est quand même pas donné. Il y a peu de métiers qui nécessitent un tel investissement financier. Je parlais des écoles de préparation au concours. Ça existe dans d'autres métiers également. Mais chez les pilotes, il y a beaucoup de sacrifices financiers. Beaucoup de pilotes aussi demandent... Enfin, beaucoup de compagnies demandent une qualif de type. Et ça, pareil, c'est quelques milliers d'euros, c'est cher. Ça nécessite des emprunts. Moi, je suis aussi très reconnaissante aux banques qui ont accepté de me faire confiance. Hein. Le stage instructeur, je l'ai payé, hein, pareil. À l'époque, 65 000 francs. C'est énorme. Il fallait aller voir la banque et qu'elle nous fasse confiance, surtout que pour faire instructeur bénévole, c'est-à-dire pas rentable. Finalement, avec le temps, je suis remboursée. Mais je pense qu'il y a peu de métiers qui nécessitent un tel investissement financier à la base. Ensuite, il y a également des sacrifices géographiques. Les pilotes doivent habiter pas trop loin d'un aéroport. Et donc, quand je cherchais un métier comme pilote, Toulouse, il n'y a pas beaucoup de compagnies basées à côté de Toulouse. Il y en a, mais faut-il encore qu'elles recrutent et qu'elles recrutent à mon niveau qui était de débutant. Il y a également les gros aéroports du style Roissy-Orly. Pour se loger à Paris, c'est pas si évident. Surtout pas trop loin de Roissy ou pas trop loin d'Orly, c'est pas évident. Et puis, il y a également un sacrifice de temps. Dans le sens où c'est pas une vie entre guillemets normale qu'on va vivre. On peut pas forcément rentrer à la maison tous les soirs. On n'a pas des horaires compatibles s'il faut emmener les enfants à l'école, s'il faut dîner avec eux le soir. Donc il y a un sacrifice côté temps qui franchement vaut la peine quand on est passionné de vol. La grande majorité des pilotes sont extrêmement contents de leur choix. Mais c'est quand même un choix à faire. Et donc c'est un métier particulier qui demandent des sacrifices, mais qui sont à la hauteur des récompenses qu'on obtient après.
Alors, avant d'aborder l'EPNER, dont tu nous as parlé juste avant, donc l'école du personnel navigant d'essai et de réception, j'aimerais que tu nous parles de tes vols en tant que pilote, même un peu d'essai, comme tu disais, que tu as fait sur DB20 avant ça. C'est extraordinaire comme opportunité. Comment tu t'es retrouvé à faire ça et comment tu as vécu ce moment de ta vie ?
Oui, alors... Comme tout pilote qui sort de ses qualifications, on commence avec 0 heure de vol. Enfin, 0, c'est pas vrai. On doit avoir 250 heures de vol quand on sort de qualification, mais toutes les compagnies en demandent toujours plus. Le plus difficile, c'est de mettre le pied à l'étrier. Les compagnies vont vous dire, il vous faut 500 heures. Puis quand vous avez 500 heures, il vous faut 1000 heures. Puis 1500, puis il vous faut une qualif ci, une qualif ça. Donc effectivement, on est à la recherche de toute opportunité pour commencer à travailler comme pilote professionnel. Moi, en l'occurrence, j'ai eu la chance de tomber sur cette entreprise qui possédait un TB20 et qui, à ce moment-là, proposait un poste de pilote de TB20. Donc le TB20 était proposé aux clients avec sous l'aile un pod, c'est-à-dire un équipement qui est fixé sous l'aile. Et donc, on avait fait les essais en vol pour être sûr que l'avion volait bien avec ce gros pod sous l'aile. Et dans ce pod, on mettait ce que le client demandait. Par exemple, j'ai travaillé avec Rockwell Collins qui développait une nouvelle balise de Search and Rescue. Donc, on mettait la balise au sol, elle émettait des ondes sur une fréquence et on vérifiait que les équipements à bord de l'avion captaient correctement ces ondes et ce qui nous permettait donc d'aller retrouver la balise à l'endroit où elle était. Donc, dans ces vols, moi j'étais donc le pilote, on préparait le vol soigneusement avant, avec les ingénieurs qui étaient assis derrière, avec les récepteurs. La balise était au sol, il y avait une équipe au sol, et donc on allait tourner à différentes distances, à différentes inclinaisons, dans différentes météos, pour essayer de voir si les capteurs à bord pouvaient nous permettre de repérer la balise. Notamment, on en a balancé à l'eau, on a également vérifié, on a fait donc toutes sortes de vols au-dessus de la Méditerranée. On a fait des vols sur terre, enfin voilà, donc ça c'était des vols assez intéressants. J'ai fait également des vols de mesure d'atmosphère. En fait, ça c'était en partenariat avec Airbus. Donc Airbus, mais ça peut arriver sur n'importe quel type d'avion, il faut qu'on donne des mesures de bruit. Donc il y a le gros avion, on va dire, qui fait sa finale. Au sol, ou son décollage, au sol, on a des micros partout et on essaye de recevoir le bruit des moteurs pour voir si c'est dans les normes, il faut le certifier. Mais évidemment, tout dépend de l'humidité, de la température, de l'atmosphère, pour qu'on connaisse la propagation du son. Donc pour ça, on avait équipé notre TB20, donc dans son pod, avec des capteurs de température et d'hygrométrie pour l'humidité. Donc mon rôle était d'aller sonder l'atmosphère dans la zone où allait passer l'Airbus. Et c'est vraiment en temps réel, on fait ça juste avant le passage de l'Airbus. Ensuite, l'Airbus fait son passage, mesure son bruit. On attend que la turbulence de sillage soit terminée. On refait un passage en TB20. L'Airbus refait un passage dans la conf d'après, parce qu'on fait ça dans plusieurs configurations. Donc ça, c'était absolument passionnant. J'ai fait ça à Tarbes, j'ai fait ça à Morone, sur la base militaire qui est à côté de Séville. Petite anecdote amusante d'ailleurs. J'allais me mettre en place avant à Morone. Donc l'avion était basé à Séville, ce qui m'a permis de faire des Toulouse-Séville en direct, en TB20, 5h30 de vol quand même, à calculer la mixture, optimiser effectivement le carburant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain de dégagement près de Séville. Ensuite, à partir de Séville, ben là, j'avais rencontré les écoles de pilotage anglaises. C'était une école qui s'était basée là-bas. Ils me faisaient marrer parce qu'ils étaient en uniforme. Il faisait une chaleur à crever. Et ben non, nous, c'était un peu roots, quoi, avec notre TB20. Voilà. Enfin, j'étais toute seule à m'en occuper, ce qui est passionnant d'ailleurs, parce qu'on s'occupe de tout. Le carburant, les plans de vol, tout. Et ensuite, j'emmenais l'avion à Morone, la base militaire. Et là, c'était génial parce que c'est une base où il y avait des Américains. On passait derrière ces cinq galaxies avec mon petit TB20 derrière. Là, je me sentais assez petite. Donc ça, c'était vraiment sympa, quoi. Puis à chaque fois, il y a les débriefings des essais, savoir comment on peut améliorer, etc. Et une autre anecdote, sur le TB20, j'ai fait également du transport de passagers. Alors, par exemple, j'ai amené... Je me souviens, un expert comptable qui avait une réunion en Corse, à Bonifacio. Il y avait un vent à décorner les bœufs. Moi, je faisais l'arc DME, donc j'étais en plein dans les nuages, la pluie, le vent, pour aller se poser en IFR à Figari. Et le comptable, il me faisait marrer parce qu'il était d'un stoïcisme. Il ne bougeait pas, il n'était pas inquiet, il était parfaitement sérieux. Après, une fois qu'on s'est posé, je l'ai attendu sur place, on est reparti, il faisait beau, parfaitement sérieux tout le temps. Alors que moi, j'ai travaillé bon, sérieusement, certes, mais bon, j'étais contente, quoi. Et il y a aussi une anecdote où j'ai emmené un pilote sur la base militaire d'Orange. C'était pour le briefing, pour le film des Chevaliers du Ciel. Il y a des très très belles images qui ont été filmées à partir d'un A340. Donc j'ai emmené le pilote de l'Airbus. Alors c'est pareil, on a eu des autorisations spéciales. Je me suis posée avec mon TB20, garé entre les Mirage 2000 sur la base militaire d'Orange. J'ai adoré, quoi. Et ensuite on a fait le briefing avec les pilotes de chasse. Voilà, mon rôle, moi, s'arrêtait là, juste à transporter le pilote. Mais c'était déjà parfaitement intéressant. Je dois avoir, entre 500 et 1000 heures sur TB20. Aux quatre coins de la France. Ah oui, j'ai fait aussi des photographes, ça c'était drôle. Les photographes, alors soit c'est pour des belles photos vues depuis le ciel, mais également du repérage industriel. l'espionnage industriel, on pourrait dire, enfin j'en sais rien, moi mon rôle c'est d'emmener la personne. Alors il y en avait un, c'était, ce qui l'intéressait c'était les élevages de porcs. Alors j'ai découvert effectivement qu'il y avait des élevages de porcs, je ne savais pas. Donc il m'avait montré sur la carte, je vais aller survoler tel et tel endroit, donc on a survolé tous les élevages de porcs du sud-ouest. Il y en a un autre, c'était les stations de recyclage de déchets ou je sais plus comment ça s'appelle là, les égouts et tout ça. Alors là, c'était dans le nord, donc il fallait partir depuis Toulouse. Hein, on était parti sur Amiens, on a été à Reims et puis on a photographié toutes les stations de recyclage un peu partout dans le coin. Bon, voilà, à usage de l'industriel. Moi, j'étais le pilote. On a même été reçus dans un château en Champagne le soir pour me remercier, ce que je trouvais extrêmement sympathique. Donc voilà, plusieurs bonnes expériences, tout ça sur avion léger.
Et comment tu as trouvé ce job ? Comment, pourquoi on t'a sélectionné, toi ?
Oh ben, en fait, c'était une entreprise qui était à Toulouse. Le monde est assez petit, hein, ceux qui grenouillent, qui demandent, et c'est ce que je conseille aux jeunes. N'hésitez pas à demander, appelez les gens, faites-vous connaître sur le terrain. Moi, j'étais tout le temps à Lasbord, et en fait, c'était après connaissance. Je connaissais le propriétaire de la boîte, il y avait déjà un pilote attitré. Le pilote en question s'est fait embaucher dans une compagnie aérienne. Et ensuite, moi, j'ai pu prendre sa place parce que je connaissais déjà le propriétaire. Il m'avait déjà vu à l'aéroclub ou dans d'autres circonstances. C'était un peu exceptionnel. Il n'y avait qu'un seul pilote dans cette boîte. Mais de fil en aiguille, par exemple, il y a quelqu'un d'autre qui cherchait un pilote pour faire des photos pour l'IGN, hein, avec des lignes droites sur son bimoteur. Donc pareil, moi, j'ai travaillé pour lui un petit peu. Et puis finalement, j'ai ensuite de bouche à oreille, j'ai parlé avec d'autres jeunes et je leur ai donné le filon et c'est eux qui l'ont fait après. Et moi-même, quand je me suis fait embaucher comme ingénieur navigant d'essai, j'ai donné mon poste de TB20 au prochain. Donc faites-vous connaître, quoi. Voilà. Ça existe des petites boîtes comme ça, il y en a partout, faites-vous connaître. Le monde est assez petit en fin de compte.
Et donc, tu as fait ça en parallèle de ton job d'ingénieur chez Airbus avant de devenir ingénieur navigant d'essai ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. En parallèle, Airbus était parfaitement au courant que je faisais ça et je posais des journées sans solde, en l'occurrence, pour pouvoir travailler comme pilote. Et comme je vous disais, j'ai toujours fait très attention de bien faire mon travail chez Airbus. Pour pas qu'on me reproche de mal le faire sous prétexte que je voulais être pilote. Déjà parce que le travail me plaisait, et aussi pour toujours rester transparent et honnête par rapport à tout le monde.
Alors donc après, tu es devenu ingénieur navigant d'essai. Pour faire ça, il faut faire l'EPNER. On a eu l'occasion d'entendre parler de la formation pilote à l'EPNER avec Christophe, invité de l'épisode 19. Est-ce que tu peux nous parler de la sélection et ensuite de la formation pour devenir ingénieur navigant d'essai en vol ? Notamment les différences avec le parcours pour les pilotes.
Oui, alors j'ai découvert le métier d'ingénieur navigant d'essai en vol quand j'étais sur, je vous disais, le data link, là, le CPDLC, ça s'appelle, Controller Pilot Data Link Communication. Parce qu'évidemment, on l'a essayé aux essais en vol Airbus et j'ai eu la chance qu'un ingénieur navigant d'essai m'ait invité à bord. Et je me suis dit, mais c'est génial comme job. Alors, ça m'a quand même interrogé beaucoup parce qu'on est en troisième homme, on n'a pas les commandes. Par contre, effectivement, on maîtrise le sujet technique, enfin, on essaye de maîtriser, et on travaille en équipage à trois, etc. Donc, c'est un peu comme tout, se faire connaître, quoi. J'ai commencé à gratter la porte juste après ma grosse désillusion, déception chez Air France. Donc, il faut quand même se faire connaître. J'ai inspiré la méfiance. Parce qu'on disait, oula, mais celle-là, elle veut être pilote. Elle ne va jamais vouloir rester comme ingénieur. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens, des ingénieurs extrêmement qualifiés qui postulaient. J'avais quand même à force 7 ans, voilà, entre 5 et 7 ans d'expérience d'ingénieur. Donc j'avais quand même de quoi présenter un CV d'ingénieur potable quand même. Donc pour être recruté comme ingénieur navigant d'essai, il faut une expérience d'ingénieur. Et comme je vous dis, j'ai toujours essayé de bien faire mon travail, d'avoir des résultats, de connaître un maximum la technique, la rigueur de travail d'un ingénieur, d'être un peu spécialisé dans un système, d'être pas trop généraliste, il faut quand même savoir rentrer dans les détails. En l'occurrence, l'encodage en ARRANG 429 des messages CPDLC, c'est très très technique, beaucoup plus que ce qu'un ingénieur navigant doit faire au quotidien. Mais voilà, j'avais déjà un petit bagage à présenter. Pour être ingénieur navigant d'essai, il faut également une expérience opérationnelle. Donc là, en tant que pilote, j'avais tout ce qu'il fallait pour démontrer cette expérience. Et puis, ben, j'ai gratté à la porte pendant 2 ans avant de me faire recruter. Évidemment, il y a une sélection en interne, parce que donc c'est un recrutement interne. Il y a une sélection, on passe des entretiens avec les chefs ingénieurs navigants, ce qui est très flippant. Enfin, moi, j'étais très, très impressionnée par leur connaissance extrême et par les chefs pilotes, par le chef des essais en vol, voilà. Et puis, on sait qu'il y a beaucoup de postulants, donc c'est pas évident. Et puis, j'ai été recrutée. Et à ce moment-là, on est recruté sous réserve de réussir l'examen final à l'EPNER. Donc, il faut partir pour une année de travail très sérieuse. Alors, juste des recrutements d'ingénieurs à Airbus, il y en a à la demande, en fonction de quand il y a des besoins. Il y en a régulièrement, bien évidemment, les gens partent à la retraite, et puis bon, selon que les affaires marchent très bien ou pas, bah, ils embauchent beaucoup de gens ou pas. Donc il y a eu des années avec, des années sans, c'est pas systématique. Et bah, du coup, quand on a une opportunité, quand on est motivé, il faut vraiment se lancer et être très patient. Et après, eh ben, c'est une année totalement passionnante, parce que donc, on est une promo. Une promo, c'est des ingénieurs et des pilotes. On travaille en équipe. Un pilote d'essai travaille toujours avec un ingénieur d'essai qui a préparé l'ordre d'essai. Et donc, on travaille ensemble sur comment on va faire le vol. Donc, on a commencé, et là, c'était assez amusant, on a commencé sur TB20. Cet avion que je connaissais bien en tant que pilote, et ben, cette fois, je me retrouvais assis sur la banquette arrière. Alors, c'était un peu frustrant au début, je me dis, c'est pas possible. Sauf que cette fois, j'avais accès à toutes les données de l'avion, tous les paramètres. Le pilote, lui, était à l'avant, et c'est moi qui lui disais. Alors, par exemple, on nous a dit, écrivez le manuel de vol de cet avion, retrouvez les vitesses de décrochage dans toutes les différentes configurations. Donc on était à l'arrière avec notre ordinateur qui nous donnait toutes les informations de l'incidence notamment de vol, et on demandait au pilote différentes vitesses, différentes incidences. Là on lui disait stop, recommence maintenant, ou alors dès qu'on voyait l'avion chuter entre guillemets, ou alors l'abattait, ou alors une vertical speed négative alors qu'il avait les commandes à cabrer, on disait stop et on disait ça c'est l'incidence de décrochage, ça c'est la vitesse. Et on refaisait plusieurs fois avec du vent de travers, de face, avec différentes températures, différentes altitudes et à la fin, et différentes configurations. Et à la fin, en fait, on a entre guillemets recréé la polaire de l'avion, j'exagère, mais on obtient une qualification de l'avion qui nous permet de réécrire le manuel de vol de l'avion. Bon, en l'occurrence, de confirmer qu'il était juste. Hein. Bien sûr, ces essais avaient déjà été faits sur TB20. Mais c'est là que j'ai découvert le métier vraiment d'ingénieur navigant d'essai. On arrive à comprendre comment vole un avion à partir d'une machine qu'on ne connaît pas et à écrire le manuel de vol. À partir du manuel de vol, on écrit les procédures. Voilà comment on recommande aux pilotes de faire. Et c'est là qu'arrivent les procédures que voient les pilotes ensuite des avions. Voilà comment vous faites quand vous avez telle panne, les procédures normales, les procédures anormales. Et donc, c'est suite à tous ces essais qu'on va écrire toutes ces procédures et le manuel de vol. Donc, on fait ça sur... moi, j'ai commencé sur TB20. Et en fait, le principe de l'EPNER, c'est de nous faire faire ça sur le plus d'avions possible. Donc, on a fait ça sur TBM 700, sur ATR, sur Airbus... sur plein d'autres types d'avions, ils nous demandent d'avoir un maximum d'expérience. On a étudié des stabilités longitudinales, stabilités latérales, on a fait des perfos, on a calibré les indicateurs de vitesse, les indicateurs d'altitude. Finalement, on apprend à comprendre comment marche une machine, et ça marche sur toutes les machines. C'est bien ce qu'il faut comprendre. C'est qu'un avion vole avec de l'incidence, un profil. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on obtient un recul qui permet de comprendre, voilà. Et ensuite, comment marche un ULM, ça va même jusqu'au parapente, hein, qui a un petit bord d'attaque aussi à l'avant de son aile. Finalement, le principe du vol, voilà, on va l'expérimenter nous-mêmes en l'air. Ce qui est passionnant aussi à l'EPNER, donc il y a les, les ingénieurs navigants d'essai, donc comme moi, il y a les pilotes d'essai, il y a les parachutistes d'essai, parce que oui, il faut essayer des parachutes. Il y a les contrôleurs aériens, les contrôleurs d'essai, qui sont ceux qui vont nous mettre dans la circulation aérienne générale et qui vont nous caser entre les civils et les militaires pour faire nos essais en fonction de ce qu'on demande, hein, ce qui peut être particulier. Et à la fin, à l'EPNER, on passe un examen et moi je l'ai passé, je suis tombée sur Nord 262. Ah, panique, des hélices. Bon, j'en avais fait sur ATR, mais voilà, c'est un avion que je ne connaissais absolument pas et c'est le principe de l'examen. Vous essayez une machine que vous ne connaissez pas. Donc on nous a quand même donné le manuel de vol et puis ensuite on nous fait un petit scénario, on a augmenté la puissance d'un moteur et on a changé, la forme des bords d'attaque. Refaites le manuel de vol, dites-nous ce qui a changé. Alors on étudie un petit peu, on a deux jours, hein, on écrit l'ordre d'essai, on fait un travail en équipe avec les pilotes. Et puis on fait le vol avec l'examinateur qui était assis derrière, comme on dit, le souffle chaud dans le cou, c'était stressant, qui a regardé toutes les notes que je prenais. Et c'est marrant parce qu'il s'est fait embaucher Airbus, après c'est devenu un super copain, mais sur le coup, en examen, évidemment, on stresse. Les pilotes étaient adorables, ils ont vraiment été sympas. Et pareil, l'un d'eux à l'EPNER, je vole avec lui, il est pilote d'essai chez nous. Le monde est petit dans les essais en vol. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir essayer tous les avions. Alors dans mon cas particulier, venant d'Airbus avec ma promo, on n'a fait que des avions civils. À noter qu'à l'EPNER, il y a également tous les avions militaires. Donc moi, je n'ai pas fait d'avion de chasse, puisque ma qualif d'ingénieur navigant d'essai est réservée aux avions non militaires. Je n'ai pas de qualif siège éjectable, par exemple. Mais c'était totalement passionnant, et notamment de s'asseoir dans les Mirage 2000 sur place.
Et est-ce que les cours étaient divisés en certains...
Oui, justement, tu parles des cours, et c'est bien ça ce que je voulais rajouter. Il y a des cours au sol. Les premiers cours qu'on fait sont les cours système. Ça, c'est les différents systèmes à bord. Donc là, il va s'agir des radars météo, des radios, des caméras infrarouges pour les avions de chasse. Enfin, tout ce qui peut équiper notre machine volante. Il va y avoir des cours moteurs. Alors là, je dois dire que personnellement, ça a été le plus difficile pour moi. Heureusement, j'avais le background de la prépa. Je me souviens du pilote de chasse qui nous faisait les cours moteurs, qui était le pilote d'essai de la M88, le moteur du Rafale. Il y avait des équations de thermodynamique partout sur le tableau. Oh, c'était terrifiant. Et je me dis, mais comment ce mec-là peut être à la fois pilote et théoricien à ce point-là? Et puis, sans aucun problème. Et je pense que c'est un peu une des caractéristiques chez nous. Ce sont des gens opérationnels, mais qui, entre guillemets, comprennent tout en théorie. J'ai halluciné pendant un essai en vrille en Cap 10 d'avoir le pilote entre chaque vrille qui était là. Alors l'incidence, elle est là. Voilà l'inclinaison. Voilà le facteur de charge. Alors que moi, je dirais pas, je subissais la vrille. Je comptais, quoi. C'est à peu près tout. Et je savais ce qu'il fallait que je fasse après. Mais le pilote, lui, il analysait tout. Il était super tranquille. Et je pense que c'est une grande capacité de savoir garder tout son intellect en vol. Tout ça pour dire que voilà, ça c'était la thermo, c'était pour moi le pire, les moteurs. Et sinon, le cours le plus passionnant, moi ce que j'ai adoré, c'est l'aéromécavol. Aéromécavol, c'est aérodynamique et mécanique du vol. Alors là, on avait un prof, un ingénieur d'essai, qui s'appelait Claudius, et qui s'appelle toujours Claudius d'ailleurs, qui nous dessinait n'importe quel avion au tableau. Et alors il est reparti de... je dirais pas de la base quand même, mais enfin on était beaucoup dans les années 50 avec le développement des avions de chasse avec Chuck Yeager et tout ça. Il nous dessinait des avions expérimentaux, les X1, etc. Et puis il nous disait, vous voyez la flèche de l'avion, le dièdre de l'avion, là où ils ont placé les réacteurs, tous les essais qu'ils ont fait à ce moment-là. C'est clair que pour moi, ce sont mes héros. C'est la vraie période des essais en vol de développement qui ont permis d'obtenir ce qu'on a aujourd'hui. Bon, après, effectivement, les critères de sécurité n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Mais c'est extraordinaire. Et donc, l'aéromécavol, il nous dessine n'importe quel avion. Et puis, il nous dit, ben voilà, comment ça vole ce truc? Est-ce que ça vole bien? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et après, ben, il nous encourageait à aller sur les meetings, ce que j'ai toujours adoré, et de regarder tout ce qu'il y avait de présent, et d'essayer de comprendre comment seront les qualités de vol de cet avion en fonction de s'il a du dièdre, s'il a de la flèche, si, où est-ce qu'ils ont placé les réacteurs, quelle est la hauteur du train, quelle est l'assiette au sol, quelle est l'assiette en vol. Enfin voilà, l'aéroméca-vol, c'était absolument passionnant. Et donc, il faut réussir tous les examens théoriques en plus de la pratique.
Ok, donc une année bien chargée, comme Christophe nous l'avait dit aussi pour les pilotes.
Ah oui, ben on travaille ensemble, on travaille en équipe, mais c'est vraiment passionnant. C'est fatigant, mais c'est vraiment passionnant.
Et les pilotes que tu as sur les essais que tu diriges, est-ce que c'est des pilotes qui sont aussi en formation ou c'est des pilotes déjà expérimentés, qui sont des formateurs aussi presque?
Oui, à l'heure actuelle, tout le monde est expérimenté. Donc c'est extrêmement agréable de travailler en équipage expérimenté parce que on se connaît bien, ça roule, on sait quoi dire au bon moment. Enfin, oui, en général, ça travaille très très bien comme ça. Mais bien évidemment, on a régulièrement des entre guillemets jeunes. Alors, je dis entre guillemets, oui, c'est des jeunes, mais enfin, ils sont pas si jeunes que ça parce qu'il y a beaucoup d'expérience qui est demandée quand même avant de commencer ce métier. Donc, on va dire nouveaux qui arrivent. Et ben, dans ce cas-là, ça se passe très très bien. On va toujours au rythme du plus lent. Qui peut être l'ingénieur expérimenté, hein. Il y a des fois, on est complètement à la rue avec nos paramètres, et donc on dit à tout le monde « stop ». Ça peut être le pilote qui dit « attends, il faut que je recommence ». Donc il n'y a aucun souci, on s'adapte toujours. Voilà, s'il y a quelqu'un qui est nouveau, ou alors des fois on fait des démonstrations à des clients, ou des autorités, ou n'importe, mais on n'est jamais pressé, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Ce qu'il nous faut, c'est un résultat d'essai propre. Voilà. En général, les gens adorent ce genre de vol.
Bon, on en reparlera juste un petit peu plus tard, mais pendant la formation à l'EPNER, donc, tu es entre guillemets la seule en formation quand tu es ingénieur navigant d'essai en vol. Les pilotes ne sont pas en formation en même temps?
Non, forcément. Forcément, il faut un équipage. On ne peut pas mettre de débutants, entre guillemets. Non, on prend forcément des gens. On travaille tous en équipage, sauf les TB20 et P68 aussi. Là, on peut mettre un pilote en formation et un ingénieur en formation, mais quand on fait ça à Airbus sur des essais, on met des gens expérimentés quand il y en a en formation. Oui. Et en fait, on gagne de l'expérience avec l'expérience des autres. Je me souviens, si vous voulez une anecdote, mon premier vol lâché solo. C'était sur, parce qu'on est lâché solo comme ingénieur navigant d'essai également, c'était sur A330, un vol de réception, je ne sais plus si c'était un premier vol ou un check flight, et ben, il se trouve qu'on a eu un problème technique. En l'occurrence, on a perdu l'hydraulique vert, bon, ça arrive. Les deux pilotes se sont retournés vers moi et ils m'ont dit « et maintenant qu'est-ce qu'on fait ?» Et j'ai été très impressionnée parce que ces deux pilotes avaient énormément d'expérience. Et bien sûr qu'ils savent quoi faire. Si le but, c'est de retourner se poser, il n'y a aucun souci. Les procédures sont prévues pour, il n'y a aucun problème. Sauf que ce qu'ils voulaient dire, c'est maintenant, ingénieur, qu'est-ce que tu veux faire dans ton programme d'ordre d'essai? Est-ce que tu veux qu'on retourne se poser en sécurité, ce qui est la base, on va dire, de la mission de l'avion, ou est-ce que tu veux essayer de comprendre d'où vient le problème? Est-ce que tu veux garder quelques-uns des essais du reste de ton programme? Est-ce que tu veux qu'on continue quand même? Est-ce que tu veux essayer de resetter quelque chose? Enfin, et c'est là que j'ai compris le rôle de l'ingénieur. Notre mission est de rapporter un résultat d'essai, et non pas juste d'aller quelque part, puisqu'on va nulle part, nous on fait des vols Toulouse-Toulouse, enfin en général. Et c'est ça, il faut rapporter un résultat d'essai. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte, ils me font confiance. C'est mon premier vol toute seule. Ils me font confiance sur qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Et ensuite, on en discute en équipage, bien évidemment.
Ouais, sacrée responsabilité.
Oui.
Et à l'issue de cette année donc, de formation à l'EPNER, tu es devenu ingénieur navigant d'essai. Tu nous as raconté un petit peu ton premier vol solo. Mais à quoi ressemble ton emploi du temps au quotidien? Combien de temps tu passes au bureau comparé au temps en vol, les relations avec tes collègues, ingénieurs, pilotes, mécanos, etc.
Alors, le quotidien et tout ce qu'il y a de plus varié, en fait, on n'a absolument aucune routine. On travaille par mission. On va nous donner une mission. Alors, on regarde sur le planning, quelle est la mission de demain, parce que c'est souvent à très, très court terme. Donc, si c'est un vol de réception, il va d'abord falloir connaître l'historique de l'avion pour savoir qu'est-ce qu'on va faire comme essai, parce que là, personne ne le connaît, il faut écrire l'ordre d'essai. Donc, mon quotidien, d'abord, je m'intéresse sur la machine que je vais essayer, à la machine que je vais essayer. Donc, je vais regarder le logbook mécanique et je vais regarder de quoi il s'agit, quel est le problème sur l'avion, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et petit à petit, donc, je vais éventuellement appeler mes collègues qui vont travailler en cabine, savoir eux aussi, ils ont peut-être des spécialités à essayer. Juste un mot, dans les vols d'essai sur les cabines complexes, c'est le cas de tous les Airbus, on a un spécialiste cabine. Parce qu'il y a de plus en plus de systèmes qui sont importants, notamment tout ce qui est Wi-Fi à bord, Internet, satellite. Et puis des avions qui travaillent beaucoup en réseau. Maintenant, on a des architectures réseau à bord. Et du coup, il faut quand même vérifier que tout marche. On a des scénarios de lumière extraordinaires, des températures, etc. Et donc, on a des spécialistes cabine qui vont également juger les bruits en cabine. C'est la cabine qui fait vendre un avion. C'est le passager à la fin qui sera le juge de s'il préfère voler avec telle ou telle compagnie. Donc, il nous faut être sûr que la cabine soit impeccable comme le client l'a demandé. Donc je travaille en partenariat avec les collègues en cabine, en avance de phase, pour savoir ce qu'ils veulent essayer dans l'avion. Une fois que j'ai mis au point ce que je voulais faire, je prépare un ordre d'essai et je vais le soumettre à la CER, donc le contrôle d'essai réception, pour savoir qu'ils anticipent un petit peu la veille, quel niveau, quelles altitudes je veux, quelle vitesse, quel temps il me faut à telle altitude. Et en fonction de toutes les demandes qui viennent des essais en vol de partout, donc Airbus, mais aussi Daher pour les TBM, aussi il y a l'armée de l'air, enfin il y a beaucoup de monde qui fait des essais. Donc ils vont nous donner des créneaux et en fonction je pourrai connaître l'heure du vol qui sera déterminée pour le lendemain. Donc vous voyez que c'est toujours au dernier moment. Je dois également déterminer la masse et centrage de mon avion, combien de fuel je veux à bord, en fonction de ma mission. Et je peux aussi demander à l'équipe de piste si je veux des modifications particulières, si je veux qu'il m'enclenche tel ou tel système. Donc tout ça, il faut que je le fasse en avance de phase. Ça prend beaucoup de temps quand même. Ensuite, on fait le vol, à l'heure qui a donc été déterminée par la CER. Donc, les pilotes, on les briefe, si les essais ne sont pas trop compliqués, une demi-heure avant. Ça suffit largement. On fait le vol avec les pilotes, et ensuite, il faut écrire ce fameux rapport de vol. Et ensuite, ouvrir le logbook électronique de l'avion et dire au mécano, il faut changer ci ou ça. Enfin, je fais mon rapport d'essai et je décide de la suite. Est-ce que cet avion peut maintenant partir en livraison auprès du client ou est-ce qu'il faut à nouveau essayer suite à tel ou tel changement d'équipement? Donc ça, c'est un peu le quotidien. En plus de ça, et donc à chaque fois, on découvre les vols du lendemain. Ce jour-là, donc quand on est en vol ou en train de faire le rapport d'essai, il faut préparer le prochain. Donc il y a des fois, ça peut être assez chargé. On ne peut pas voler tous les jours, pas comme ingénieur navigant d'essai. Le pilote, oui, parce que le pilote, donc pareil, il sait la veille sur quel vol il va être placé en fonction des horaires qui auront été déterminés par la CER. Et ensuite, on a toutes les missions en plus dont je vous parlais, qui sont les missions extérieures, les meetings, l'humanitaire, les photos, tout ce qu'il peut y avoir de particulier, les campagnes, etc. Ça, on le prépare en parallèle sur des dates particulières. Mais encore une fois, tout dépend de la météo, de l'état de l'avion. On travaille. Moi, finalement, je travaille beaucoup plus avec les mécanos, les spécialistes cabine, les mécanonaves quand c'est sur un profil, quand c'est sur un prototype. Les pilotes, c'est vrai que c'est un peu plus à court terme. On les briefe sur l'ordre d'essai qui est déjà élaboré. Ça, c'est au quotidien. Après, quand il y a des grosses missions à préparer, bien évidemment, ça se prépare bien plus en avant. Éventuellement, même aussi, on va préparer notre avion au simulateur, notre vol au simulateur. Et selon le type d'essai, des fois, on peut être amené à faire ce qu'on appelle une safety review. Quand on a des points de sécurité particuliers, on peut être amené à aller évaluer la sécurité du vol qui est prévu. Ça nous arrive quand même assez régulièrement d'avoir des points délicats à voir. Donc là, avec des spécialistes sécurité, des spécialistes système, on évalue vraiment l'essai qu'on va faire pour savoir où est-ce qu'on se place pour avoir le maximum de sécurité. Bien évidemment, la sécurité est en premier lieu dans nos vols. Mais on fait quand même des essais en vol, donc il faut analyser. Ça se fait bien en amont du vol, le vol est préparé correctement. Voilà, le vol, c'est vraiment la cerise sur le gâteau de la préparation. Après, ce n'est pas vraiment du bureau, dans le sens où bon, déjà, on ne tient pas en place. Y a des réunions, on y va, on va sur l'avion, on fait des réunions à distance. Voilà, on tient pas, on n'est pas vraiment des gens de bureau quand même.
J'ai l'impression qu'en charge de travail, il y a beaucoup plus qu'un pilote, non ? C'est vraiment le cas ou...
Pilote quoi, de ligne, d'essai
Un pilote d'essai.
Non, le pilote d'essai. En fait, si on s'en tient au vol dont je parle, oui, l'ingénieur navigant d'essai a plus de travail. Le pilote d'essai, lui, il va faire ces vols-là, mais en plus, il va faire beaucoup d'autres choses qui n'incluent pas l'ingénieur navigant d'essai. Par exemple, tout ce qui est évaluation des nouveaux cockpits au CIMU. Là, ils travaillent avec des ingénieurs au sol. Tout ce qui est développement de nouveaux systèmes, ils vont souvent au CIMU pour évaluer en fait toutes sortes de systèmes. Donc ça, c'est pas avec l'ingénieur navigant d'essai, c'est avec tous les ingénieurs de développement. Donc le pilote d'essai a tout ça à faire. Plus, il va dans les compagnies aériennes pour expliquer les nouveautés, pour transmettre de l'information. Ils font aussi beaucoup plus de réunions et de préparation de vols très spécifiques ou de développement que nous, ingénieurs navigants, on peut en faire. Bon, ça dépend ensuite de la spécialité de l'ingénieur navigant. Moi, par exemple, je suis à la réception. Donc, c'est un peu comme le médecin généraliste. Je fais tous les systèmes, mais je ne suis pas spécialiste d'un système. On a des ingénieurs navigants d'essai qui sont le médecin spécialiste, spécialisé en moteur, spécialisé en autopilote, spécialisé en communication. Enfin. Et donc, ceux-là vont aussi faire plus de développement, de réunions avec le bureau d'études, avec la certification. Voilà, on a tous un métier un petit peu particulier. Et effectivement, c'est en fonction de notre spécialité, de là où on se développe, du travail qu'on y met, on est assez autonome. Mais bon, comme on est un peu tous passionnés, je pense qu'effectivement, on travaille beaucoup, mais parce que ça nous plaît.
Au-delà de ça, tu donnes également des cours d'essai en vol à des compagnies aériennes, à des pilotes de ligne, tout simplement. En quoi consiste ton travail dans ces missions-là ? Et puis, je t'avoue que moi, je ne savais même pas que ça existait avant que tu m'en parles.
Ah oui, ça, c'est assez récent quand même. Ça a commencé... Bon, déjà, le facteur humain est une matière, je me souviens, qui est arrivée dans l'ATPL théorique en 99. Donc, en fait, bon, par rapport aux pionniers, là, quand on disait « the right stuff », là, l'étoffe des héros, on a évolué. La sécurité des vols a évolué. Ensuite, le facteur humain est arrivé en 99 dans l'ATPL théorique et la sécurité des vols a continué à se développer. On a décidé de communiquer sur les essais en vol et de donner des cours qui s'appellent Maintenance Check Flight, qui sont c'est Technical Flight Familiarization, une autre dénomination, la familiarisation au vol technique. Qui sont essentiellement utilisés par les compagnies aériennes quand leur avion sort d'une check day, qui est la grosse visite dans laquelle on démantèle tout l'avion, on vérifie tout et on remet tout. Voilà. Donc on va faire un vol d'essai toujours avant de le remettre en ligne. C'est une initialisation, une familiarisation comme on dit. Donc il y a 2 jours de classe, ça se passe soit dans la compagnie aérienne, soit chez Airbus. 2 jours de simu. Le premier jour, on fait les essais, tout se passe bien. Le deuxième jour, on fait des essais, il y a des pannes. Donc, voilà, on leur apprend à travailler en équipage à 3 avec ces pannes. Et ensuite, le cinquième jour, c'est un vol sur leur avion, dans la compagnie aérienne. On fait soit un vrai vol de sortie de maintenance, soit on sort un avion d'opération et on va faire toutes sortes d'essais. Donc ça va aller sur les essais basse vitesse, vraiment les protections des très hautes incidences, les essais grande vitesse, on va faire les essais des commandes de vol au maximum. Donc nous chez Airbus, on est limité à plus ou moins 67 degrés d'inclinaison quand on est en loi normale. Donc effectivement, on va demander au pilote d'aller sur la butée de commande de vol en roulis et de vérifier que l'avion s'arrête à 67, avec une petite tolérance sur l'inertie. Donc c'est assez amusant, hein. Enfin moi j'aime bien. Et s'il ne s'arrête pas, bah, il faut savoir le reprendre. Hein. C'est, à chaque fois, on pense qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas. On vérifie pareil les assiettes maximum. Donc on va à plus 30 degrés d'assiette, moins 15. On va mettre un petit peu de facteur de charge, 2G par exemple. On va vérifier que au niveau système, bon, je vous ai parlé des masques oxygène. On va vérifier que éventuellement l'APU démarre à très haute altitude. Des fois, selon la demande client, on va vérifier que les moteurs redémarrent. Donc on va couper un moteur volontairement en vol. Et dans un certain domaine de l'enveloppe de rallumage, donc en fonction donc du fabricant du moteur, l'ingénieur va choisir l'altitude et la vitesse de rallumage. Et je vais dire, en fonction de ce qui reste sur le moteur, le GT résiduel, les différentes rotations résiduelles, je vais dire, bon ben là maintenant, top, on rallume. On prend le top, on vérifie en combien de temps il rallume. Ça, c'est le rôle d'ingénieur aussi. Hein. Je vais regarder quelles sont les températures maximum qui vont être atteintes, s'il y a des vibrations, etc. On va vérifier que, bah, bien sûr, ça rallume bien. À ma connaissance, ça a toujours bien rallumé. Mais on est là, justement, pour le vérifier. Donc, on apprend tout ça à la compagnie aérienne. Beaucoup de compagnies aériennes nous ont sollicités. Et donc, on a donné beaucoup de cours. D'autre part, les pilotes adorent ça. Il y a l'équipage à trois à apprendre. Le troisième homme peut être soit un pilote, soit un ingénieur de la compagnie, ou un technicien avisé. Il y a quand même quelque chose de très particulier pour quelqu'un qui n'est pas navigant. Si je prends un ingénieur sol, peut être brillant ingénieur, mais travailler en vol dans un environnement qui bouge, avec du facteur de charge, où il faut s'adapter en temps réel, avec de la turbulence. Déjà, il faut savoir écrire en turbulence, pour moi, c'est une qualité de l'ingénieur. C'est très particulier. Donc effectivement, soit c'est un ingénieur sol qu'il faut apprendre à... Voilà, qu'il faut mettre dans un environnement, dans un avion. Soit c'est un pilote à qui il faut donner un papier et un crayon et qu'il écrive pendant tout le temps, ce qui n'est pas aussi évident non plus pour un pilote qui aurait plutôt envie de tenir le manche. Et puis c'est vrai qu'il faut quand même bien connaître la technique. Donc c'est un métier qui est un petit peu difficile à apprendre, surtout en cinq jours. Donc les pilotes adorent ça. Le troisième homme, en général, c'est lui qui sue le plus pendant toute la formation. Mais en général, ils sont hyper contents. Donc en compagnie aérienne qui ont demandé la formation essai en vol, on a les majors, bien évidemment. Air France est un très bon client, Lufthansa, etc. Mais également des petites compagnies, ça va vraiment dans le sens de la sécurité. Et en général, ils sont tous très contents à la fin de la formation.
Quand tu dis le troisième homme, quelle est la répartition des tâches dans le cockpit ? Donc il y a le pilote, il y a toi, et celui qui est assis par exemple en place droite, c'est ça que tu appelles le troisième homme ?
J'ai besoin de deux pilotes, d'accord. Et c'est encore pire. Donc c'est deux pilotes, un ingénieur, oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Selon le type d'essai, soit c'est un prototype et l'ingénieur est assis à l'arrière, à une station d'ingénieur sur laquelle il voit tous les paramètres. Et en troisième homme, on a le mécanicien navigant d'essai, qui est le spécialiste du prototype, qui le connaît par cœur, et sans qui on ne pourrait pas faire voler un prototype. Et ensuite, il y a deux pilotes. Nous, dans les vols de réception, ou les vols avec des avions de ligne déjà certifiés, l'ingénieur est en troisième homme. Effectivement, on a besoin de deux pilotes parce que la charge de travail nécessite deux pilotes. Quand on fait un essai, l'ingénieur a donc son document sur les genoux. Alors aujourd'hui, c'est l'iPad, hein, on est en électronique. Y a un pilote qui va exécuter la manœuvre, qui sera le pilot flying, l'autre qui va être pilot monitoring, qui va s'occuper de la radio, mais qui va également s'occuper des fois, par exemple, par exemple, ça sera lui qui va faire les essais système. Si je demande par exemple à dépressuriser, à couper les packs, à remettre les packs, etc. Il faut vraiment deux pilotes pour effectuer les actions. Des fois, même moi, je vais faire les actions. Quand on fait des essais hydrauliques, je vais couper les pompes hydrauliques ou des essais fuel, c'est moi qui vais couper les pompes, mais toujours en accord avec au moins un des pilotes. Il y a quand même une assez grosse charge de travail à bord pendant les essais. Dans les basses vitesses, moi je monitore les incidences, j'informe les pilotes des incidences que je vois, et il y en a un qui vole, l'autre qui regarde, qui communique. Qui communique notamment avec le contrôle. Ça peut être soit le contrôle d'essai, en l'occurrence ils sont familiers, soit ça peut être si on va dans une compagnie aérienne avec le contrôle local, qui n'est pas très habitué à avoir un avion qui demande des blocs d'altitude. Moi je demande par exemple un cap constant et un bloc d'altitude du niveau 100 au niveau 140 par exemple. Il faut quand même qu'il y ait un pilote qui arrive à négocier tout ça avec le contrôle. Donc on se répartit le travail à trois. Moi, je note les incidences, les résultats, les vitesses qu'on a obtenues. Il faut vraiment le noter en temps réel pour prendre les décisions en temps réel si on continue ou si on continue pas.
Mmh. Ça doit être une expérience extraordinaire pour les pilotes de ligne. Ça les fait sortir de leur routine. J'imagine que certains ne sont pas forcément très sereins, d'ailleurs, d'emmener un avion vraiment à 67 degrés d'inclinaison ou en dehors du simulateur.
Vrai que c'est curieux. Surtout dans les vols clients qui est donc la démonstration de leur avion, on leur dit bon ben, essayez vos commandes de vol. Certains, ils essayent à 25 degrés, sans autopilote, bien évidemment, hein, pilote. Et 25 degrés, ils disent ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, c'est leur choix. De toute manière, on a essayé l'avion, on ne leur propose que le démontrer. Et d'autres pilotes adorent ça. Ah super, je peux aller à 67 ? Ben oui, allez-y. Et ils y vont, ah, c'est vrai, 45, 60, ouais. Quand même aussi savoir le faire, il faut gérer la vitesse, il faut gérer le facteur de charge. Enfin, je sais pas, essaye de le faire déjà en DR400, tu vas voir que c'est quand même déjà pas si évident, en sécurité, de faire du plus ou moins 67 degrés d'inclinaison. Donc ça nécessite une certaine habitude. Je pense qu'il y a, dans les pilotes, bon, ceux qui font la formation en compagnie aérienne sont volontaires, donc eux, en général, ils sont trop contents. Effectivement, on leur explique comment le faire en toute sécurité. Ceux qui font les vols clients, certains veulent le faire, d'autres ils disent bon, c'est pas obligé, c'est pas donc il n'y a aucun problème quoi. Effectivement, il y a différentes sortes de pilotes. Voilà. Par contre, ce qu'on demande toujours en vol d'essai, et ça c'est très difficile pour les pilotes, c'est cet équipage à trois. C'est très difficile parce que il y a une voix qui vous sort de derrière là, un troisième homme. Qui dit maintenant on fait ci, on fait ça, c'est très énervant pour un pilote. Bon, dans un autre sens, comme on sort du boulot habituel, effectivement, il compte beaucoup sur nous pour vérifier que tout va bien, parce qu'on est dans une situation inhabituelle. Mais en tout cas, dans les vols de cours, d'essais en vol aux compagnies aériennes, en général, ils adorent ça, ils sont très contents d'avoir cette occasion. Et on n'a pas de passagers derrière, personne n'aura peur, tout va bien.
Mmh. Là, c'est génial. Alors, je te propose de conclure cette partie de la discussion par rapport à Airbus, parce que tu as également plein d'autres expériences aéronautiques, en préalable ou en parallèle de celles que tu vis en ce moment. Là, tout de suite, on va passer aux questions-réponses rapides. Est-ce que tu vois le principe ?
Oui, je vais essayer de faire au mieux.
Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction ? Lâcher un élève à l'aéroclub ou réussir un essai complexe, même compliqué, du premier coup ?
Eh bien, là, tu vois, lâcher un élève à l'aéroclub, je dirais, c'est là. Parce qu'il y a un côté humain. Je considère que la gestion de l'humain est beaucoup plus difficile que la gestion de la technique. La technique, bah, c'est la technique, hein. C'est une machine, c'est noir ou blanc. Quand on, c'est satisfaisant de réussir un essai complexe. C'est très satisfaisant d'apporter un essai, un résultat d'essai, même s'il n'est pas bon, mais on apporte un résultat. Mais la satisfaction humaine de voir cet élève, cette personne, heureux d'avoir réussi son objectif qui est de piloter un avion seul, alors ça, c'est inoubliable. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde se souvient de son premier vol solo. C'est le vol qui compte. C'est aucune des qualifications suivantes. Le côté humain, ça va bien au-delà de la mécanique. Et lâcher un élève en premier vol solo, c'est génial. Il est tellement content après, ça c'est génial. Mmh.
Bon, on reviendra là-dessus juste après, parce que tu es aussi instructrice. Tu aimes bien les meetings Oshkosh ou le Royal Air Tattoo ?
Ah, c'est dur. Bon, je suis obligée de dire Oshkosh, parce que, oui, j'adore les meetings. Le Royal Air Tattoo est fabuleux, c'est extrêmement excitant. C'est franchement, dès 10h du matin, on se fait réveiller par un F-18, et puis ça enchaîne toute la journée sur des avions extraordinaires, des patrouilles, c'est exaltant. et c'est aussi très accueillant pour les familles. Mais Oshkosh, ça va au-delà, parce que non seulement il y a les F-18, et notamment il y a les Blue Angels, c'est absolument extraordinaire, mais en plus il y a tout ce qui vole, franchement, du radio commandé, du planeur radio commandé, aux vieux avions de 1930, aux patrouilles de T6 où il y en a 53 en vol. Enfin, c'est hallucinant. Et puis il y a également les avions militaires. Il y a des Galaxies, des Hercules. On a eu la 380, on a eu le Beluga. Il y a tout ce qui vole. C'est vrai que j'ai pas vu le DR-400. J'ai vu beaucoup de Vans. Nous, on y a emmené un cri-cri. Il y a des avions expérimentaux. Des parachutistes en voltige. Il y a tous les plus grands noms de la voltige, les Pits et tout. Enfin, Oshkosh est de loin, à mon avis, le meeting aérien le plus extraordinaire du monde.
Bon, pareil, on en reparlera un petit peu plus tard. Tu as des trucs intéressants à nous dire sur Oshkosh, je pense. Et ma dernière question, qu'est-ce que tu préfères ? Faire le PowerPoint pour ton chef qui va à Tahiti sans toi ou aller à l'autre bout du monde pour donner des cours d'essai en vol ?
Oui, bon, je sais pas, j'hésite. Bon, je dois dire quand même que l'histoire du PowerPoint, c'est la vie, hein. C'est normal. Quand on commence, il faut faire ses armes, on peut pas être envoyé tout de suite, quoi, et l'expérience vient après. Aller à l'autre bout du monde, c'est fabuleux. Je dois dire quand même que mon métier me permet de rentrer chez moi quasiment tous les soirs, sauf quand je ne suis pas en mission, bien sûr. C'est quand même un confort exceptionnel qui n'est pas forcément donné à tous les pilotes, qui le souhaitent, hein, parce que pas tout le monde a envie non plus de rentrer tous les soirs. Mais oui, effectivement, au début, c'était frustrant parce que j'avais tellement d'enthousiasme, j'avais tellement envie d'y aller. Finalement, je suis quand même tombée sur des chefs bienveillants qui rapidement m'ont donné des occasions de sortir un petit peu, de descendre voir les avions en bas du bureau. J'ai été au meeting aérien à titre perso, parce que j'adorais ça, au Bourget, etc. Puis j'allais voir mes équipes Airbus, et qui me disaient « bon, ben viens avec nous maintenant ». Voilà, je suis vraiment reconnaissante des gens qui m'ont aidée à obtenir ce que je voulais, c'était de se rapprocher des avions et d'aller à l'extérieur.
Bah, merci de t'être prêté au jeu. Je te propose qu'on parle maintenant de l'instruction dont on vient de parler il y a quelques petites questions. J'ai cru comprendre que c'est une activité qui t'apporte beaucoup de satisfaction personnelle et de fierté même. Quel est selon toi le rôle d'un instructeur en aéroclub et même peut-être ses devoirs ou vis-à-vis de l'élève ?
Oui, effectivement, quand on prend un nouvel élève, on a un contrat moral avec lui ou elle. Moi, je suis instructeur bénévole à l'aéroclub. C'est pas tout à fait pareil comme qu'un salarié. L'élève le sait, hein. Je vais faire de mon mieux sur mon temps libre pour l'aider. Donc, effectivement, moi, ce qui me plaît, c'est si l'élève est motivé. Et ce qui est formidable, c'est que dans un aéroclub, c'est du loisir. Les gens ne sont pas forcés de venir faire de l'avion. Donc, on vole pour le plaisir. Et c'est pour ça que c'est complémentaire d'un métier professionnel, c'est que là, je ne vole que pour le loisir, le plaisir de l'élève. Il faut que l'élève ait du plaisir, sa motivation. Je regarde son objectif. Alors, selon la personne, ça peut être un PPL. Il y en a qui veulent aller devenir pilote professionnel. Il y en a qui veulent juste être lâché solo, avoir la chance de le faire une fois. Donc, je m'adapte. Et dans tous les cas, le but, c'est de faire plaisir à l'élève. Et c'est vraiment du plaisir. S'il fait un temps pourri et que ça va être désagréable, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, on fait un briefing. Voilà, moi, je suis instructeur depuis 20 ans cette année. Je suis également examinateur depuis 13 ans maintenant. Et franchement, je ne m'en suis jamais lassée. Alors, si j'ai eu une période où je me suis dit, bon, j'ai envie de changer. Et j'ai été faire autre chose. En l'occurrence, j'ai été faire du largage para, ce qui est absolument génial aussi, hein, sur PC-6, parce que l'avion me faisait rêver, le Pilatus, j'adore cet avion. Ça, c'est vraiment très, très chouette. Mais c'est du pilote professionnel, c'est-à-dire qu'on fait les choses quand il faut, dans la rentabilité qu'exige le métier de pilote professionnel. Et finalement, je suis revenue les week-ends, comme j'ai que les week-ends de disponibles, et encore pas tous, mais bon. Je suis revenue à mes chers élèves. Voilà, c'est l'école de début. J'ai l'impression que c'est le kindergarten, là, l'école maternelle de certains pilotes. Voilà, j'adore. C'est les premiers pas. C'est le premier lâcher solo qui est le moment extraordinaire de la vie d'un pilote. Certains élèves, je les ai retrouvés dans des cockpits avec leurs chemises blanches et leurs stripes, là, leur galon. Ça m'a fait tellement plaisir, quoi. C'était leur objectif, ils ont réussi. Et moi, j'ai fait les tout premiers pas, juste un tout petit peu, j'ai contribué. Et ça, j'adore. J'adore transmettre. D'autres emmènent leur famille, d'autres ont eu la satisfaction de faire leur premier vol solo à 70 ans. Et après, ok, c'est tout. Mais la satisfaction, ça me fait plaisir. Et comme je te disais, c'est le côté humain qui est vraiment enfin voilà, c'est ma récompense. Moi, je suis instructeur bénévole, j'y tiens. Je fais ça vraiment pour transmettre, pour faire plaisir, et puis je m'adapte, voilà, sans obligation. Voilà. J'ai fait de l'instruction à Toulouse. J'ai commencé à Montaudran, sur cette piste mythique de l'aéropostale, où il y avait Saint-Exupéry, Mermoz, Didier Dora et tant d'autres. La piste de Montaudran a été fermée, donc maintenant c'est essentiellement Lasbordes, mais ensuite, j'ai emmené des élèves partout, en France, en Espagne. Ça, c'est en instruction. J'ai emmené après ma famille à Jersey, Guernsey, depuis l'aéroclub de Caen, où j'ai fait de l'instruction en Allemagne, en allemand. Oui, monsieur. Et notamment, il y avait un élève qui ne parlait pas anglais, donc on s'est débrouillé en allemand. Ça, c'est génial. Les éoliennes sont deux fois plus grandes qu'en France et le plafond deux fois plus bas, donc des fois, il faut s'adapter. Ou alors on allait déjeuner sur des îles de la mer du Nord, ces petites îles-là, Nordenay, Juist. Ou alors on est allé en ex-Allemagne de l'Est faire des camps de pilotage où on délocalisait tout l'aéroclub, tous les avions, tout le monde, en tente ou en hébergement, et on volait du matin au soir, la nuit, tout le temps, en Allemagne. Puis bon voilà, on fait ça aussi à l'aéroclub ici, des fois on va à Saint-Giron comme ça. Enfin voilà, l'instruction ça me plaît beaucoup parce que ce n'est qu'un loisir et donc les gens font ça par plaisir. Donc c'est que du bonheur, voilà, bonheur de transmettre.
Alors en parallèle de ton métier, je l'ai dit et puis on a déjà vu un petit peu, tu as plein de projets en parallèle. Je pense par exemple à celui-ci, celui avec tes amis où vous êtes allé à Oshkosh avec pour faire décoller le cri-cri, un cri-cri du toit d'une voiture. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure qui sort carrément de l'ordinaire et nous parler du meeting d'Oshkosh en général?
Oui, alors en fait, tout a commencé avec mon ami Lionel Adroit qui a construit son propre cri-cri. Alors cri-cri, c'est Michel Colomban qui a designé ce petit monoplace qui pèse 80 kg à vide et dont la masse maximum est de l'ordre de 160 kg ou 170. À peu près. Donc, il a designé ce petit avion qui est motorisé par deux moteurs de 15 chevaux. Il existe en version 20 chevaux, donc c'est quand même énorme. Et donc, c'est très très drôle. C'est un avion qui est totalement fait pour la voltige. Il passe tout le cycle de voltige. Et il est très facilement démontable. Il y a une clé d'aile, et hop, on enlève l'aile et puis on met tout ça dans une remorque. Donc c'est assez drôle, on va dire c'est une niche. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'avions qui ont été construits, ça ne peut pas s'acheter déjà construit. Et donc mon ami Lionel a construit cet avion sur plusieurs années, et il a volé, il a fait de la voltige et tout. Et puis on voulait le montrer en meeting aérien, bon ça avait déjà été fait. Hein. Mais l'avion étant tellement minuscule sur une piste, personne ne le voit, quoi, évidemment. Donc il s'est dit, on va le faire décoller du toit d'une voiture, parce que comme ça, au moins, ça se verra plus. Donc, le principe, c'est qu'on lance la voiture à 120 km/h sur la piste. L'avion est posé sur le toit, sur la galerie, plein gaz, donc les deux petites hélices à fond, le manche plein avant, le frein de parc serré. Et à 120 km/h, top, manche au neutre, et l'avion s'élève verticalement. Donc là, c'est formidable, au moins on le voit. Ensuite, il fait une petite démo verticale et il revient se poser. Alors c'est un exercice qui avait déjà été fait il y a un certain temps. En tout cas, nous, on n'en avait pas spécialement connaissance. Donc au début, on a fait un peu les essais en vol, savoir quel était le champ aérodynamique de la voiture. Est-ce que la voiture va gêner l'avion ou pas? Et c'est là que Lionel m'a sollicité pour essayer de voir un petit peu le côté ingénieur navigant d'essai, le côté préparation d'un essai. Voilà, avant de faire ce genre de choses, on n'avait pas trop de données. D'ailleurs, enfin, on a travaillé qu'avec nos données. Donc, on a fait d'abord des essais avec des morceaux de plastique là, qui étaient posés sur un rack au-dessus de l'avion pour essayer de voir le champ aérodynamique. Ensuite, on a posé l'avion. Il a fallu designer la plateforme qu'on posait. C'était un SUV. Hein. On a commencé avec Subaru en partenariat. Après, on a fait ça avec BMW et aux États-Unis avec Ford. À chaque fois un SUV. Donc, il fallait designer la plateforme selon le SUV en dessous pour avoir la bonne inclinaison de l'avion pour que, quand le manche passerait au neutre, il décolle vertical et il ne se prenne pas les cales ou il ne parte pas en arrière, en avant. Enfin, voilà, parce que l'avion est en des cales qui sont en U, qui recouvrent que la moitié de la roue. Il faut qu'il tienne. Enfin, il ne faut pas que l'avion se barre pendant l'accélération, il ne faut pas qu'il roule, évidemment. Mais il faut aussi qu'au décollage, il ne touche pas en avant ou en arrière. Donc, il a fallu regarder ça, les limites latérales également, lors du virage d'alignement de la voiture sur la piste. Les limites latérales lors du vent de travers, s'il y en a. Combien de rafales on pouvait prendre, quelle était la puissance moteur qu'il fallait mettre. Enfin, bref, donc j'ai fait tout ça avec lui. Et dans l'équipe, on était trois. Il y avait également Daniel qui conduisait la voiture. Et là, on retrouve encore l'ingénieur navigant d'essai. Moi, j'étais en place droite. Dans le sens où les gens opèrent. Le pilote tient le manche. Et au travail, c'est pareil. Et là, c'est Daniel qui conduit. Et il sait comment conduire. L'accélération, elle ne se fait pas par hasard. Il ne faut pas d'à-coup. Il ne faut pas des changements de rapport. Et donc, moi, il y a les exécutants et moi j'ai leur décès, je vérifie et je peux dire s'il y a des choses qui vont pas, voilà, stop, voilà. On a écrit les procédures, qu'est-ce qu'on fait en cas de panne moteur si... Alors il fallait les communications radio avec Lionel sur le toit. Qu'est-ce qu'on fait si finalement on doit aborter le décollage, il ne faut pas piler d'un coup quoi, parce que là l'avion il passe devant. S'il y a un chevreuil qui traverse la piste, voilà. Il fallait qu'on ait vu. Moi, je suis dans mon domaine, hein, on fait des essais, donc on a vu toutes les éventualités. Et puis, une fois qu'on a vu ça, on s'est dit, tiens, bah, en fait, ça marche bien. On avait fait des GoPro aussi, il y a des GoPro partout pour filmer comment les roues sortent des cales, etc. Et une fois que ça marche bien, on l'a monté, on a commencé par le meeting de Air Expo à Muret en 2015. C'était la première démonstration du cri-cri qui décolle du toit d'une voiture. Ensuite, on s'est appelé la cri-cri team. Ensuite, on l'a monté en meeting, différents meetings aériens, 2016-2017, et notamment, donc cette fois en partenariat avec BM, notamment, on a fait deux voitures qui décollent avec deux cri-cri en patrouille. Donc, on faisait accélérer deux voitures. Et le deuxième cri-cri, c'était Florent Audon qui l'avait construit et qui faisait la démonstration en vol, qui est maintenant à l'équipe de voltige de l'armée de l'air et qui a un parcours extraordinaire. Donc, c'était une grande fierté aussi de rencontrer des gens extraordinaires comme ça. Donc, on l'a montré en plusieurs meetings en France. Et ensuite, bah, comme on commençait à se faire connaître, on s'est dit quand même, il faut qu'on aille à Oshkosh. Et on s'est fait inviter à Oshkosh. Il faut se faire inviter hein, pour aller démontrer à Oshkosh. Il y avait 2000 avions en démonstration. Ah non, on est sur un autre niveau que la France. Hein. 2000 avions en démonstration et on était les seuls Français. Donc déjà, cocorico, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers quand même, hein, franchement. Et donc c'était un grand honneur. L'honneur en question, bon, donc, il a fallu déjà commencer par se faire approuver par la FAA, ce qui n'était pas donc si simple que ça. Et ça ne pouvait se faire que sur place, avec une démonstration à la FAA. Donc il a fallu, on a designé le conteneur pour mettre l'avion dans un bateau, la remorque, tout, on a tout organisé, on a été récupérer l'avion aux États-Unis. On l'a amené sur un autre terrain qu'Oshkosh, parce qu'Oshkosh, il y a vraiment beaucoup trop, il y a 10 000 avions sur le terrain. Hein. Vous avez certainement entendu parler, il y a deux pistes qui sont sécantes à 90 degrés et qui sont utilisées simultanément, déjà, avec la deuxième piste qui est au bout de la première. Et sur la première, qui est la plus longue, il y a 4 points de couleur. Et ce qui veut dire qu'en fonction des perfos de l'avion, on peut être autorisé à se poser sur le point jaune, le point bleu, le point vert ou le point orange. Et par exemple, je ne sais plus les couleurs exactement, mais le tout en simultané. C'est-à-dire que moi, avec mon avion qui atterrit court, je peux être autorisé sur le dernier point, le point vert par exemple, pendant qu'il y a un avion qui atterrit peut-être un petit peu plus long, qui est en finale sur le point jaune. Donc en fait, on a des plans verticaux parallèles. En plus, on n'est pas tous, on est plusieurs à se poser sur la même piste en même temps. La radio, c'est quelque chose, hein, Oshkosh. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, la plupart des avions sont garés en fonction de leur marque. Et vous pouvez, bah, vous êtes dans l'herbe à côté de tous vos Cessna, tous les mêmes à côté, par exemple. Et puis, bah, vous mettez votre tente sous l'aile. Et tout est prévu. Il suffit de mettre une petite étiquette sur l'hélice. Refuel, s'il vous plaît, je veux de la 100LL. Et puis, bah, vous allez vivre votre vie, vous promenez sur le meeting et vous revenez, vous avez le plein, pas de souci. La facturation se fera par mail.
La tente sous l'aile du cri-cri, faut pas être trop grand, non ?
Tout à fait. Nous, on était les stars, nous, on était en démonstration. Donc là, on a eu notre place. Alors, il y avait des avions gigantesques à côté. Et puis, ben, nous, on stockait en statique, en display statique, on stockait l'avion sur le toit. Parce que sinon, on ne le voyait pas, quoi, il était trop petit. On avait fabriqué des rails en alu pour monter, hisser l'avion avec un treuil sur le toit de l'avion. Et on laissait les rails derrière. J'ai donné 6 interviews, CNN, NBC, etc. À chaque fois, c'est absolument passionnant. Et ouais, surtout, ma grande fierté, je pense, c'est d'avoir réussi à démontrer à la FAA qu'on pouvait faire ce vol. J'aurais démontré bah, toutes les conditions et ils étaient contents de notre travail. C'était une expérience extraordinaire. À Oshkosh, les vols n'ont lieu que l'après-midi. Ça commence toujours par la descente des parachutistes avec le drapeau américain, avec un énorme drapeau américain qui fait de la taille de leur voile. Hein. Faut quand même voir, hein, à 1, 2, 3, 15 parachutistes qui font des manœuvres extraordinaires, avec l'hymne national américain. Et toute la foule s'arrête, la main sur le cœur, et tout le monde chante. Déjà, c'est assez surprenant, mais c'est impressionnant. Hein. Ça dure quoi, 2 minutes, même pas. Et ensuite, ils enchaînent des démos toutes plus extraordinaires les unes que les autres, jusqu'au coucher du soleil. Et ensuite, il y a 2 fois dans la semaine un show de nuit, où les avions sont équipés de LED, de feux d'artifice, c'est absolument extraordinaire, des choses avec des altitudes qui ne seraient pas autorisées en France, effectivement, hein, c'est très très basse altitude, il y a des démonstrations, c'est impressionnant, et curieusement, il y a très peu d'accidents. C'est bien préparé, c'est sérieux, on a assisté à tous les briefings de sécurité, c'est rodé. Oshkosh, ça existe depuis, au moins 70 ans, je pense. Tous les ans, des gens reviennent. C'est extrêmement accueillant pour les familles. Et le matin est dédié à tous les exposants. Il y a plein d'expositions statiques au sol. Et notamment, il y a un truc qui est assez extraordinaire. Alors nous, on a assisté à un cours de démontage et remontage moteur. C'est marrant. Ils prennent un Lycoming, c'était un O200, ou je ne sais plus. Non, c'est un Continental O200, ou c'était un... je ne sais plus. Ils ont démonté complètement l'avion, le moteur, et ils nous ont expliqué comment le démonter comme il faut. Et ensuite, le lendemain, c'était le cours « Remontez votre moteur ». Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Il y a des fois des conférences avec des astronautes, voilà. Et puis, il y a un truc qui est extraordinaire, le « 7 Days Wonder »,« 1 Week Wonder ». En 7 jours, ils construisent un avion. C'était un RV-8, je crois, cette année-là, en 2018. Tous les postes sont répartis. Il va y avoir ceux qui font le moteur, ceux qui font les bords d'attaque, ceux qui font le train d'atterrissage, ceux qui vont former la verrière, etc. Et donc, selon les spécialistes techniques, il y a des coachs qui vous expliquent quoi faire et tout le monde peut participer. Donc, par exemple, moi, j'ai posé un rivet. Voilà, je suis extrêmement contente. Ils m'ont expliqué comment poser un rivet. Ils m'ont dit, voilà, t'appuies là, tu fais ça. Ok, très bien. N'empêche que. Tout le monde peut participer, c'est encadré. Et en 7 jours, ils ont construit un avion, ils l'ont peint et ils l'ont fait voler. Ce qui est totalement hallucinant. Mais il y a le chrono qui tourne, c'est un peu speedant. Mais c'est bien organisé, ils connaissent ça depuis longtemps. Et nous, on avait la chance de dormir sur place. Donc des fois, on se fait réveiller le matin par un B2 qui arrive sur place. Des trucs complètement dingues. J'ai vu des ailes volantes, des choses que j'aurais jamais vues ailleurs. Donc c'est vraiment fascinant, vaut le voyage. J'ai également rencontré des gens qui passaient à Oshkosh pour quelques jours, des amis de France, soit des pilotes de ligne Air France qui étaient en escale à Chicago et qui ont fait quelques jours à Oshkosh, qui venaient nous dire bonjour, soit des gens qui étaient venus en vacances spécialement. Donc ça aussi c'est hyper sympa quoi, de voir tout le monde sur place. Donc je recommande très très fortement Oshkosh. Dernière semaine de juillet tous les ans.
Dernière semaine de juillet tous les ans. Bon, je pense que c'est haut dans la bucket list de pas mal de passionnés d'aéro. Et c'est encore monté d'un cran, là, je pense.
Mais vraiment, vraiment vaut le voyage.
Alors, on arrive à la fin de cette discussion, ou presque, et c'est le moment traditionnel des anecdotes. Est-ce que tu peux nous raconter une ou plusieurs anecdotes de vol qui t'ont marqué, s'il te plaît ?
Alors, mon Dieu, j'en ai des anecdotes de vol. J'adore voler. Je n'ai pas parlé du vol montagne, du vol sur ski. J'adore ça. Se poser avec un avion léger sur ski. Une des anecdotes juste que je voudrais raconter, bon, très rapidement, hein, c'est avec un mousquetaire. On est parti de Méribel, c'était en l'occurrence. J'ai beaucoup volé à Megève, mais là, c'était à Méribel. Et on s'est donné rendez-vous sur un glacier à 10 000 pieds d'altitude. On s'est posé en mousquetaire. On s'est donné rendez-vous avec des copains qui venaient également avec leurs mousquetaires. Et là, à 10 000 pieds d'altitude, sur le plan horizontal arrière de l'avion, on a déployé la petite nappe à carreaux rouge et blanche, les thermos avec du chocolat chaud, des petits gâteaux sur le glacier au milieu de la neige. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, on a pris notre petit goûter, on a tout remballé, on est reparti en décollant sur la neige. Donc ça, c'est chouette. Deuxième, toujours en avion léger, j'ai fait une erreur, parce qu'on commet tous des erreurs. Une fois, je suis partie en vol avec des passagers. Alors, la mission était d'emmener des supporters, enfin deux personnes qui étaient supporters du Real Madrid à Madrid de Barajas pour le vol, c'était la demi-finale de la Coupe de l'UEFA, je ne sais plus quelle année, Madrid contre la Juventus de Turin. Donc, j'avais un copain à droite et à l'arrière, j'avais les deux passionnés du Real Madrid. On y va, on y va, on y va. Et j'avais pris les notams avant et je n'avais pas pris les notams le jour même parce qu'on voulait se poser tôt. Je ne sais pas comment j'ai fait mon affaire. N'empêche qu'on allait à Cuatro Vientos, à Madrid. On arrive avec notre TB20, manque de peau, visite du pape sur le terrain. Alors je me dis quand même, voilà, mon erreur, c'est que je n'ai pas dû voir le notam. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. N'empêche qu'on est là avec notre TB20. On est à Madrid, bon, bah, déroutement, Barajas, donc l'énorme aéroport international de Madrid, énorme pour notre petit TB20. Donc, on se présente en finale, hein, ils nous ont donné une autorisation exceptionnelle pour se poser. Et derrière nous, Alitalia qui est arrivée. Et alors, le contrôleur qui nous demande quelle est votre vitesse maximum en finale. Je fais ce que je peux, mais enfin, j'avais 120 nœuds, et puis après un moment, je suis bien obligée de réduire pour poser mon TB20. Et donc, à un moment, j'entends derrière « Alitalia, remettez les gaz ». Alors moi, j'étais super gênée, quoi. Je fais remettre les gaz à un avion de ligne à cause de notre petit avion. Bon, donc on fait notre tour, on se pose, et il se trouve qu'au roulage, je croise le Alitalia en question, je ne sais plus quel type d'avion c'était, sur un taxi, ouais. Et c'était donc TB20, c'était le passage à l'Alitalia, voilà. Et alors, moi, j'étais vraiment très, très, très gênée. Et puis, j'avais les gens derrière qui faisaient des bras d'honneur. Enfin, vous battre ce soir au stade, tout ça, de Juventus de Turin. Ils leur faisaient des bras d'honneur et tout ça. J'avais honte. Bon, il s'est trouvé que j'ai été invitée au match de foot dans le grand stade Santiago Bernabéu. Et les Espagnols ont gagné. Ça a été la grosse fête. Et donc, mes passagers étaient très, très contents. Et au retour, ils dormaient. C'était beaucoup plus calme. Deux autres anecdotes rapides. La première, je pense, c'est un A380 qu'on a mené en Allemagne. On était trois à bord, exceptionnellement, j'avais personne en cabine et donc je m'occupais à la fois de l'avant, j'avais deux pilotes et de la cabine. Et à un moment, j'étais donc dans une cabine de 380, c'est grand. C'est très, 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 très grand. L'avion était équipé cabine, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, il était équipé cabine. Et donc, je faisais mes tours de sécurité en cabine, avec des kilomètres à pied. Et la pilote, il y avait un bar. Des fois, les 380 sont très bien équipés. Il y avait un magnifique bar. Bon, évidemment, tout est recouvert quand même de papier bulle. On fait très attention. J'étais donc assise au bar, toute seule, en train de me dire « j'aimerais bien avoir des amis ». C'était assez rigolo. Et là, la pilote me dit « Ah, Lucie, t'es toute seule, je vais te mettre l'ambiance. » Et elle m'a mis sur le public adresse, elle m'a mis la musique à fond, elle m'a mis « Highway to Hell » à fond dans le 380. Et donc, je me suis fait un petit film où je vois, voilà, je me suis filmé tout l'avion, je suis toute seule avec tous ces sièges vides et « Highway to Hell » à fond. Et ça donnait vraiment envie de danser dans l'avion. C'était rigolo. Et dernière petite anecdote amusante, On s'est fait intercepter, on se fait régulièrement intercepter aux essais en vol Airbus par la police de l'air qui vient s'entraîner avec nous. Des fois, le chasseur se place à côté, donc il nous demande si on est d'accord, bien sûr. Le chasseur se place à côté et puis prennent des photos et selon, il nous demande de communiquer en radio. Et le pilote s'entraîne en faisant la phraseo normale quand un avion se fait intercepter, donc veuillez décliner votre identité, votre call sign, le nombre de personnes à bord. Enfin, ils ont un protocole assez strict de choses à demander. Il se trouvait que le commandant de bord était un ancien pilote de chasse. Et donc on avait ce Mirage 2000 qui était juste à côté de nous. On a vu des rafales, on a vu plein de choses, c'était sympa. Il était juste à côté de nous et puis le pilote de chasse commence à nous sortir son truc. Et le commandant de bord, ah, mais il est cool ton Mirage 2000. Il commence à lui répéter, à lui parler de façon pas du tout phraseo, quoi. Ah ouais, c'est génial, t'as le nouveau radar, et comment tu le trouves? Ah, t'es trop cool, mec, et tout. Et l'autre, il est resté sérieux parce que, il savait pas trop comment le prendre. Et donc, en fait, c'était juste super sympa. Bon, il est resté sérieux, mais il nous a fait des magnifiques tonneaux avant de partir. J'aime bien quand on entend la post-combustion dans l'avion qui est juste à côté. C'est vraiment très sympa. Voilà, des anecdotes en vol.
Entendre le bruit d'un avion à côté, c'est...
Oui, l'autre jour en TBM, on avait un TBM, j'étais en A350, on avait TBM en patrouille très très resserrée pour faire des photos. On entendait l'hélice juste à côté, c'était impressionnant. Oui.
Bon, eh bien, merci beaucoup pour ces anecdotes. On est gâtés aujourd'hui, on a eu plein saupoudrés pendant un petit peu tout l'épisode. On arrive malheureusement, bon ça fait bientôt 2 heures, mais quand même, j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps, mais... je vais te laisser la parole pour conclure.
J'aurais tellement de choses à dire.
Oui, bon, on verra peut-être pour te faire revenir dans le podcast. Je pense que ça plaira beaucoup aux auditeurs. On verra. je te laisse la parole du coup pour conclure cette discussion. Est-ce que tu as un mot de la fin pour celles et ceux qui t'écoutent?
Oui. Alors moi, je dirais. J'ai lu, c'est un peu bête, hein, j'ai lu un petit livre qui est assez connu qui s'appelle La magie du rangement de Marie Kondo, une japonaise. Bon, grosso modo, elle vous explique comment ranger. Moi, c'est un peu le bazar chez moi, mais c'est pas grave. Et elle dit, ne gardez que ce qui vous met en joie. Et en fait, finalement, ça m'a marqué. Ne gardez que ce qui vous met en joie. Et donc, je dirais pour les jeunes qui veulent se lancer là-dedans, voilà, si ça vous fait plaisir d'être en l'air, eh ben, cherchez à être en l'air. Vous pouvez parler au club, il y a des ULM, vous pouvez faire de la montgolfière, vous pouvez voyager en passager des fois, ou si vous voulez vous faire payer pour voler, ce qui est quand même intéressant, faites instructeur, vous pouvez vous faire payer. Gardez ce qui vous met en joie, voilà. Ne vous laissez pas abattre par des échecs, c'est jamais vraiment des échecs, il faut se poser la question. Continuez si vous êtes passionné. Eh ben, vous aurez une récompense. Il faut toujours y croire. Si finalement, vous ne l'étiez pas tant que ça, ben c'est peut-être pas plus mal que ça n'ait pas marché. Donc, je pense que voilà, il faut garder le positif et ça marchera toujours. Donc voilà, il faut continuer à y croire, toujours.
Ben, c'est un très beau message de fin. Et puis, quand tu parles d'échecs, des pseudo-échecs que tu as eus t'ont amené aujourd'hui un travail totalement extraordinaire. Alors bon, c'est peut-être pas si grave que ça.
Non, c'est ça. C'est finalement ce qui me met en joie, moi, c'est de voir la beauté du monde vu d'en haut.
Le plus beau bureau du monde. Eh bien, merci beaucoup, Lucie, pour ton temps aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment. Je pense que ça va être un épisode apprécié, j'espère, par les auditeurs. Je te souhaite plein de beaux vols, plein de beaux essais et puis beaucoup de bonheur à toi et à tes élèves à l'aéroclub.
Merci beaucoup, Sébastien, et merci de m'avoir reçu.
Et ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un très bon moment en écoutant cet épisode de l'expérience Shiban. Si c'est le cas, je te propose de nous suivre sur ta plateforme de podcast préférée, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Tu peux également nous mettre 5 étoiles et un commentaire gentil si le cœur t'en dit. Et surtout, et c'est très important pour nous, n'hésite pas à parler de ce podcast autour de toi. Si tu apprécies notre travail, tu peux également nous soutenir financièrement. Ça nous permet de faire pas mal de choses. De couvrir nos frais, d'acquérir du matériel pour continuer à proposer du contenu toujours plus qualitatif, d'aller à la recherche d'invités toujours plus passionnants et de continuer à explorer de nouveaux formats. Pour ce faire, tu peux nous faire un don ponctuel ou régulier sur notre Tipeee. Le lien est en description de l'épisode et sur notre site internet xpshiban.com. Je tiens à remercier nos contributeurs et contributrices sur Tipeee et celles et ceux qui nous envoient de gentils messages et nous suggèrent des invités. Sans vous, ce podcast n'existerait pas, ou en tout cas, il n'existerait plus. Et pour terminer, un gros big up à toute l'équipe qui travaille avec moi derrière ce podcast. Maxence, Marek, Victor, Ilia, Thibaut, Léa, Paul et Tom. Allez, prends soin de toi et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle discussion instructive, divertissante et inspirante.